Vous écoutez
RMC. RMC, midi, 15h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et Laure Clauzier.
Salut les amis, très heureux de vous retrouver, c'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Clauzier, on est ensemble jusqu'à 14h sur RMC. Nice veut mettre en place un label sanitaire pour les commerçants souhaitant indiquer leur vaccination. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? C'est notre sujet jusqu'à 13h.
Oui, et à 13h, on parlera retraite. Bon, évidemment, tout le monde a entendu le projet du gouvernement, 64 ans pour tout le monde. Mais ce que vous n'avez peut-être pas entendu, c'est ce sondage. Les Français, eux, voudraient dans l'idéal, partir à la retraite à 58 ans. Est-ce que c'est bien raisonnable? Eh bien, ça mérite un débat. Et on ne va pas vous étonner, mais Emmanuel et moi, on n'est pas d'accord, comme d'habitude.
À 12h50, on va jouer au C'est quoi ça, notre jeu sur l'actualité. Cette semaine, vous gagnez votre séjour pour deux personnes dans les hôtels Baladins, Escapade en ville, à la campagne. Vous ferez ce que vous voulez pour gagner votre séjour. Vous envoyez JEU par SMS au 73216. Mais avant, on va parler non pas du pass sanitaire, mais d'un label. La ville de Nice va proposer aux commerçants et restaurateurs volontaires qui souhaiteraient rassurer leurs clients de mettre sur leur devanture un label sanitaire vaccin. Une preuve tangible que l'ensemble du personnel est vacciné. Il sera apposé à l'entrée des établissements. Ça sera une sorte de gage de confiance. C'est ce qu'indique Christian Estrosi, le maire de la ville, qui compte envoyer le label aux commerçants dès cette semaine. Le maire de Nice aime décidément beaucoup les labels. Il avait déjà proposé un label protocole sanitaire pour les commerçants et restaurateurs qui s'engageaient à respecter les consignes à la lettre. Alors un label vaccin pour les commerçants, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Laurent, pour toi, c'est une bonne idée.
Excellente idée. C'est ce que j'appelle la pression sociale positive. Toi, Emmanuel, qui adore les mesures incitatives, mais celle-là, elle est absolument formidable. Les commerçants qui seront vaccinés, dont le personnel sera vacciné, ils vont en faire un argument pour rassurer les consommateurs français ou étrangers. On est sur la Côte d'Azur, les touristes sont là, etc. Donc, c'est formidable. Deuxièmement, ça prouve que les restaurateurs, les commerçants, etc., sont des citoyens avant tout, et donc des citoyens qui prônent la vaccination. Et donc, je pense que par effet de similarité, ça peut faire tache d'huile, ça peut inciter le commerçant d'à côté à en faire autant pour des raisons de concurrence, et puis surtout, les clients voyant que leurs commerçants sont vaccinés, bah, ça peut aussi, eux, les inciter à se vacciner. C'est vraiment ce que j'appelle la pression sociale, mais le bon côté de la pression sociale, c'est de l'incitation positive. Et très honnêtement, je préfère de très loin ce genre d'initiative à tous les débats qu'on a sur la vaccination obligatoire. Moi, j'aime bien la contrainte. Peut-être qu'en dernier ressort, on n'aura pas le choix de faire autrement. Mais avant de contraindre, je pense que convaincre par ce genre d'initiative, c'est très intelligent. Moi, je cautionne à 100%.
Emmanuel, toi, tu dis mauvaise.
Oui, je suis pas du tout d'accord avec toi. D'abord, je ne considère pas que ça fasse partie de la pression sociale positive. La pression sociale positive, l'incitation sociale positive, elle est anonyme, elle est imposée. Là, qu'est-ce que tu fais en fait? Ton commerçant, il va être obligé. Il va afficher vacciné, pas vacciné. Donc un. Ça veut dire que forcément, parmi son personnel, parce qu'il faut pas rêver, aujourd'hui, tu vois que dans tous les métiers, dans toutes les catégories sociales, il y a ce débat pro-anti-vaccination. Donc, toi, patron, tu vas devoir gérer ce débat en interne avec tes salariés. Tu vas devoir le gérer avec tes clients. Parce que forcément, dans tes clients, t'en as qui vont trouver ça bien, t'en as qui vont trouver ça pas bien. Donc, franchement, c'est au contraire, moi je trouve, mettre de l'huile sur le feu dans ce débat qui est déjà extrêmement passionnel et extrêmement tendu. C'est pour ça que la seule décision qui soit rationnelle, efficace et qui produise des résultats rapidement, c'est la vaccination obligatoire. Tu tues le débat. Alors oui, ceux qui sont contre vont râler, mais je veux dire, ils n'auront personne contre qui se retourner. Donc franchement, moi je pense que c'est créer plus encore de débats, de conflits, de passions, que de créer de la pression sociale.
Politique. C'est intéressant parce que le type de conflit auquel tu fais référence, tu ne te poses absolument pas de la question de son existence à propos du pass sanitaire. Je vais te prendre deux, trois exemples. Aujourd'hui, si tu veux aller à un concert,
oui.
tu dois présenter ton passeport sanitaire. Mais en revanche, les gens qui t'accueillent, eux, ils sont pas obligés d'être vaccinés.
Et c'est pour ça que la vaccination obligatoire, c'est l'idéal.
Attends, je continue. Tu veux prendre l'avion, tu es obligé d'avoir un passeport sanitaire.
Oui, très bien.
Dans certains pays, même, il faut que tu sois vacciné.
Ouais.
D'accord? Mais en revanche, le personnel des compagnies aériennes, au sol comme dans l'avion, lui, il est pas obligé d'être vacciné. Je t'ai pris hier, souviens-toi l'exemple de ma maman, à l'EHPAD, on me demande pour monter dans sa chambre d'être vacciné. Par contre, le personnel qui me le demande ne l'est pas vacciné.
Mais là, tu lui donnes des billes pour la vaccination.
Donc, tu vois bien,
je vois pas ton raisonnement.
Attends, je vais te dire. Donc, tu vois bien qu'il y a une forme d'incohérence. Or, là, tu dis, le commerçant qui va dire, je suis vacciné, il va créer un débat avec ses clients. Mais pas du tout.
Si.
Il va au contraire les rassurer.
Je pense que tu sous-estimes l'ampleur du débat. Peut-être qu'autour de toi, tu n'as que des pro-vaccins.
Pas du tout.
Mais je peux te jurer que ce commerçant, si ça se trouve, parce qu'il met son label, il va se faire casser sa vitrine par des anti-vaccins qui vont le fustiger, le stigmatiser. Moi, je pense que c'est plus source de tension et de problèmes que de source d'apaisement.
C'est dingue ce que tu dis, parce que d'une certaine manière, il faudrait que ceux qui se font vacciner se cachent et honte.
Mais c'est la réalité.
Mais attends, il faut pas en avoir.
Attends, t'avais un badge, je suis vacciné, on t'a dit de pas le mettre.
C'est la réalité. C'est radicalisé et que tu trouveras des gens qui mèneront des actions spectaculaires pour effectivement essayer de lutter contre la vaccination. Donc la vaccination obligatoire, tu n'as personne contre
qui te retourner. Les anti-vaccins, ça représente pas 5% de la population.
Il y a eu des manifs.
Mais écoute ce que je te dis, c'est 5%. Il y a beaucoup d'hésitants, mais les hésitants, ils sont pas violents. Ils hésitent.
Mais encore une fois, tu crées des débats, des problèmes, des discussions. Il y a un moment où faut trancher, c'est tout. Et dans un but d'apaisement et d'efficacité sanitaire, parce que si demain tu décides la vaccination obligatoire, et ben voilà, c'est clair. Ceux qui ne le sont pas
subiront des sanctions.
Vachement apaisant que de dire vous êtes obligé.
Mais oui, c'est apaisant.
Ah bon ?
Mais oui, c'est apaisant.
On va aller au 32-16 dans un instant. Oui. Il y a un restaurateur de Nice qui nous attend. Mais avant, Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux.
Oui, bonjour Laure, bonjour à tous. On attend vos messages, vos témoignages sur Twitter, sur Facebook et sur l'application RMC.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Et on est avec Guillaume qui est restaurateur à Nice. Bonjour Guillaume.
Bonjour à vous trois, bonjour Laure, Laurent, Emmanuel.
Toi, ce label sur ta devanture, tu en penses quoi ?
Alors moi aujourd'hui je suis assez partagé et j'écoute avec attention ce que Laurent et Emmanuel ont cité comme argument. Je suis plus du côté de Laurent parce que dans la construction je suis toujours moi pour que avoir en fait des arguments qui soient constructifs et s'éloigner en fait des arguments coercitifs. Je pense que de rassurer nos clients, comme disait Laurent tout à l'heure, on l'a déjà fait au tout début de la crise, avec les vitres, les parois entre les banquettes, avec les hygiaphones en caisse, avec tout ça, le gel hydroalcoolique, dernièrement avec les cahiers de rappel, avec le QR code, avec l'application Tous Anti-Covid. On rassure nos clients et je pense que notre rôle, c'est ça. Moi, quand j'accueille mes clients dans le restaurant, j'aime qu'ils viennent en famille. J'aime qu'ils viennent en couple, j'aime qu'ils viennent même tout seuls, mais qu'ils soient rassurés dans un endroit qui est propre. Ça, c'est la nature même d'un restaurant, mais qu'ils soient aussi à l'abri de contamination ou de danger pour les enfants, pour la grand-mère.
Guillaume, c'est Laurent, salut. Je trouve que l'argument, il me fait réfléchir, l'argument d'Emmanuel. Est-ce que tu crains, toi, comme restaurateur, si tu affiches ce label sanitaire sur ta vitrine, que les plus réfractaires au vaccin viennent te causer des soucis, casser ta vitrine, se plaindre auprès de toi, critiquer ton initiative ?
Bah, tu sais, Laurent, moi, j'ai déjà affiché le premier label que Monsieur Estrosi avait mis en place.
Sur le protocole sanitaire.
Voilà, ça m'a posé aucun problème de mon côté, du côté de mon personnel, du côté de mes clients. Et on a mis en place, après, comme sur tout le territoire et dans le monde entier, des matériels qui permettaient de protéger nos clients. Très sincèrement, si on est plus là dans une démarche de communication que dans une démarche de... pas de répression, mais d'obligation, si jamais on enlève le vaccin obligatoire. Ouais.
Et parmi ton personnel, ce débat, il existe ou pas ?
Alors, au tout départ, avant de réouvrir le restaurant, ça fait peu de temps qu'on a réouvert, et j'en suis vraiment, vraiment content, même s'il y a beaucoup de choses à régler. Mais quand tu rajoutes le côté financier, le côté comptable, le côté ressources humaines, tu rajoutes maintenant le côté social, en demandant à tes salariés ce qu'ils pensent de la vaccination. Ils m'ont tous répondu, ils ont tous en dessous de 25 ans, hein, allez, en dessous de 30 ans. Entre 20 et 30 ans. Ils m'ont tous répondu que se faire vacciner, ça les dérangeait pas, mais qu'ils y pensaient pas.
Ah oui.
Ils sont pas contre.
Ils n'ont pas pensé.
Ils sont pas dans où aujourd'hui, je pense qu'ils pensent à retravailler, ils pensent à s'éloigner du chômage partiel, ils pensent à retrouver une activité, à rapprendre ce qu'ils ont appris au plaisir de travailler avec moi, plutôt que de penser encore, c'est peut-être un tort, mais je pense pas.
Quand du coup, Guillaume, place, attends, c'est intéressant, parce que du coup, quand tu lances le débat et que tu leur dis, voilà, on va peut-être avoir un label sanitaire, si tous les salariés de ce restaurant sont vaccinés, est-ce que vous êtes d'accord? Ils répondent quoi? Oui, on le fait, on y va?
Alors, moi, je leur ai posé la question s'ils seraient d'accord pour se faire vacciner. Ils m'ont pas répondu, j'ai pas encore posé la question du label sanitaire. Ils m'ont répondu que ça les dérangerait pas. Mais après, poser un label sanitaire, pour moi, c'est quelque chose qu'il va falloir que je puisse leur expliquer en bons termes, en cohérence, pour qu'ils puissent l'accepter et qu'ils voient aussi leur intérêt. Moi, mon intérêt, il est plus marketing, j'allais dire, qu'autre chose.
Oui, mais donc, ça va te créer quand même beaucoup de, pas des soucis, mais au moins, ça va, enfin, je veux dire, tu vois, ça te demande des efforts, des trucs. On rendrait la vaccination obligatoire,
il y aurait pas de débat. Toi, Emmanuel. Oui, je suis d'accord avec toi. Du social, j'en fais tous les jours. Donc là, ce sera du social, mais ce sera du constructif pour le bien collectif. Moi, je vois ça.
Mais c'est positif, ta démarche.
Guillaume, reste avec nous. On est avec Véronique Boré, qui est directrice de l'Agence de sécurité sanitaire environnementale et de gestion des risques de la métropole Nice-Côte d'Azur. Véronique Boré, c'est vous qui mettez en place la stratégie vaccinale pour la région de Nice. Merci d'être avec nous dans Neumann Le Chip. Ça va s'organiser comment, ce label, et ça va servir à quoi précisément?
Bonjour. Alors, l'objectif du label de confiance, il est double. D'abord, c'est de rappeler qu'il faut se vacciner. Aujourd'hui, on voit l'arrivée du Delta. On voit un taux de contamination beaucoup plus important. Et l'objectif de ce label, c'est aussi d'inciter à la vaccination et de rappeler qu'aujourd'hui, c'est la solution pour nous permettre de sortir de cette situation et d'éviter de nouveau des fermetures de commerce, un confinement. Et puis le deuxième, c'est de rendre confiance aux consommateurs, puisqu'on sait aujourd'hui que la vaccination, elle protège des formes graves de la maladie, mais elle évite aussi qu'on puisse se transmettre. Et donc, c'est de redonner confiance aux consommateurs dans des établissements où les personnels sont vaccinés.
On entendait Guillaume nous dire que ses salariés dans son restaurant n'y avaient même pas pensé à se faire vacciner. Est-ce qu'il faut faire du porte-à-porte ?
Oui, la ville de Nice et la métropole l'organisent et c'est très important de rappeler, j'entendais effectivement ce que Guillaume expliquait, c'est très important de rappeler que la vaccination aujourd'hui, elle est importante pour protéger, pour éviter de devenir soi-même un vecteur de contamination.
Parce que au-delà de l'intérêt marketing que décrivait Guillaume, notre restaurateur de Nice là à l'instant, il y a aussi le côté incitatif. Ça va inciter donc d'abord les salariés de ces commerces à se vacciner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et puis par ricochet, ça peut aussi inciter les clients à se vacciner à leur tour, de voir les commerçants qu'ils fréquentent tous les jours eux-mêmes vaccinés.
Exactement, c'est totalement dans ces buts-là que Christian Estrosi a proposé la mise en place de ce label et des premiers commerces que nous allons labelliser d'ici la fin de la semaine.
Merci beaucoup Véronique Boré d'avoir été avec nous, directrice de l'Agence de sécurité sanitaire environnementale et de gestion des risques de la métropole Nice-Côte d'Azur. Un grand merci à Guillaume qui était avec nous au 32-16 il y a quelques instants, restaurateur à Nice. On vous attend, vous, au 32-16. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la ville de Nice de mettre en place un label sanitaire pour les commerçants et les restaurateurs? On sera dans un instant avec Christophe Souk, restaurateur et vice-président de l'UMI Nice. L'UMI, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. A tout de suite, Neumann Le Chip sur RMC, on revient.
RMC, midi 15h. Neumann Le Chip.
RMC, midi 15h.
Neumann Le Chip.
Neumann Le Chip, on est ensemble jusqu'à 14h. On parle vaccination et on parle label sanitaire. La ville de Nice veut mettre en place un label pour les commerçants et les restaurateurs qui souhaitent indiquer leur vaccination. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Pour Laurent Neumann, bonne, c'est une pression sociale positive. Pour Neumann Le Chip, mauvaise, rien n'est plus efficace que la vaccination obligatoire. Lisa Marie, quelle est la première tendance?
Vous êtes pour le moment 60% à trouver que c'est une mauvaise idée de mettre en place ce label sanitaire dans la ville de Nice. Oui, pour le moment.
Voilà.
J'aimerais bien qu'on nous donne des messages, qu'on nous explique un petit peu pourquoi. J'ai du mal à comprendre ce qu'on trouve de mal dans cette initiative.
Compliqué, Laurent.
Mais c'est pas compliqué. T'as eu Guillaume. Tu viens d'avoir Guillaume. Il t'a expliqué.
Guillaume, il est plein de bonne volonté, mais Guillaume, il a pas encore convaincu son personnel. Il sait pas quel impact ça va produire sur ses clients. Donc oui, il est plein de bonne volonté, mais il est quand même dans le doute. Tu lui colles une bonne vaccination obligatoire, il a plus de soucis.
Il y a beaucoup de messages de commerçants qui ont peur d'avoir leur vitrine vandalisée.
Voilà. Alors justement, on est avec Christophe Souk, qui est restaurateur et vice-président de l'UMI Nice. Bonjour Christophe Souk.
Bonjour.
On entend ces restaurateurs, nous disait Lisa Marie, ces commerçants qui disent « Moi j'ai peur que ça me crée plus de problèmes, que ça ne me rapporte de solutions ou de clients. » Est-ce que c'est un problème que vous aussi vous remontez?
Alors, c'est un problème que l'on a sur une population plutôt de 20-25 ans. C'est quand même un truc assez hallucinant.
C'est-à-dire
Les plus jeunes sont très contents de se faire vacciner. Les plus anciens, les plus de 30 ans, sont très contents de se faire vacciner. Alors, je vous parlais aussi en tant que chef d'entreprise. Moi, j'ai 5 établissements. Actuellement, j'ai plus de 95 salariés. Oui. Sur ces 95 salariés, j'en ai plus de 80 qui étaient très très heureux de se faire vacciner le plus rapidement possible, sachant qu'on avait travaillé avec Christian Estrosi et Véronique Bourré, qui était en charge de la vaccination, pour faire vacciner les équipes avant même la réouverture du mois de juin. Donc on avait vraiment, moi j'avais des salariés qui étaient très heureux de ça.
Oui.
Et après, sur les résistants, il faut expliquer que c'est la clé pour empêcher la contamination. C'est la clé pour empêcher. Alors, je peux comprendre qu'il y ait des débats sur les effets secondaires. Je peux comprendre certains qui me disent, malgré le 2,5 milliards de vaccinations déjà faites, qu'ils ont besoin d'avoir un peu plus de recul. Mais le discours que je tiens, moi, avec mes équipes et avec les autres restaurateurs de la ville de Nice, c'est de dire, pensez une seule chose. C'est que la vaccination va permettre de ne pas contaminer les autres. Un métier de service.
Christophe, juste une question. J'imagine qu'il y a un autre problème qui peut être soulevé, c'est ce que certains appelleront la discrimination à l'embauche.
Alors c'est justement ce que voulait nous dire Nicolas, qui est avec nous au 32-16. Je te coupe Laurent, mais qui est à full bec. Nicolas, toi t'es inspecteur qualité. Tu voulais parler de cette discrimination potentielle du non-vacciné ou du vacciné face à un poste, par exemple dans un restaurant.
Oui, bonjour à tous.
Salut Nicolas.
J'étais déjà intervenu et du coup, je comprends pas le point de vue de Laurent. Surtout que je m'étais laissé convaincre de me faire vacciner grâce à lui.
Ah,
voilà.
C'est bien, bravo.
Et du coup, je comprends pas que du coup, si on veut avoir ce label, qui est pour moi un gage de qualité, ça prouve que qu'il n'y a pas de risque à aller manger au
dans
restaurant.
Cet établissement, oui.
Voilà. Et, du coup, le restaurateur va vouloir avoir ce label pour attirer ses clients et donc va devoir sélectionner des profils de candidats qui justement...
Tu as raison sur l'embauche, mais d'abord il va falloir qu'il commence par convaincre ses propres salariés. Et ensuite, s'il veut embaucher, oui, ça peut être un critère. Mais le Code du travail permet ça. Enfin, je sais pas ce qu'on pense.
Non, le Code du travail, Christophe Souk, vous pouvez pas demander à vos salariés qui est vacciné, qui ne l'est pas.
Non, mais moi, je pense que le débat est un peu faussé, si je puis me permettre. Je pense déjà, la discussion elle a lieu jeudi matin avec la mairie. C'est-à-dire que on n'a pas encore rencontré la mairie pour mettre exactement sur le papier ce qui va avoir lieu. Donc pour l'instant, on parle un petit peu dans le vide. Il n'y a pas pour l'instant d'obligation d'avoir 100% des salariés vaccinés. Le but, c'est de motiver tout le monde pour qu'il y ait un élan qui vient de la restauration et du tourisme pour faire une vaccination nationale. Ça, c'est le premier point le plus important. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça commence quelque part. Donc on ne parle pas pour l'instant de dire il y a une discrimination. On n'en est pas là.
Mais sauf qu'il va bien falloir demander à vos salariés s'ils sont vaccinés ou pas.
On est le 6 juillet. Quand voulez-vous qu'on renouvelle une équipe en pleine saison d'été, quand on a déjà du mal à trouver du personnel? On marche sur la tête. Vous croyez vraiment que moi, je vais, alors qu'il me manque déjà plus de 25 salariés pour faire ma saison, vous croyez vraiment que je vais commencer à me débarrasser de salariés en plein milieu?
Par contre, sur les 25 qui vous manquent, et si vous les embauchez, vous allez peut-être leur demander.
Mais tu ne peux pas le faire.
On peut pas.
Attends, c'est interdit, on n'a pas le droit, le Code du travail est interdit.
L'entreprise ne peut pas demander à ses salariés s'ils sont vaccinés ou pas. C'est pas possible.
Est-ce qu'elle peut les obliger à se faire vacciner?
Mais non.
Voilà.
Bon, ça clôt le débat.
Je peux comprendre que le respect de la vie de chacun, mais je pense aussi que moi, quand je parle à mes salariés pour leur expliquer qu'on a dû fermer déjà à deux reprises toute la restauration et les bars en France parce qu'on avait un problème avec la Covid qu'on n'arrivait pas à gérer au niveau national, que si eux-mêmes ne viennent pas nous aider avec la vaccination pour bloquer cette contamination au niveau national, on va devoir de nouveau refermer, c'est-à-dire que eux-mêmes vont perdre leur boulot et que nous-mêmes, on va fermer et que la restauration qui a dû déjà être fermée deux fois, ce coup-ci, risque de mourir.
C'est exactement ce que j'appelle la pression sociale positive.
Oui, exactement. La pression sociale positive, il faut qu'on la commence. Il faut qu'on arrête de laisser trop de temps aux gens de réfléchir sur « Ah oui, mais est-ce que j'ai le choix et pourquoi ?» Non, il faut avoir une image globale, il faut avoir vraiment une image globale de ce qui se passe en France. Si on ne fait rien maintenant, on va à l'échec, on va dans le mur en septembre, octobre. Bon, je pense que Véran parle de juillet, et moi je parle de septembre, octobre, et on va avoir un hiver sur lequel, là, on va mourir. Donc je préfère qu'on souffre maintenant plutôt qu'on meure cet hiver.
Et c'est bien pour ça que plutôt que tous ces petits pas, le grand pas, ça serait la vaccination obligatoire.
Écoutez, moi je me prononce pour uniquement, je parle au niveau de l'économie, je pense au niveau de la restauration. On est des chefs d'entreprise, on a des très bons contacts parce qu'on est plutôt dans des affaires plutôt familiales. On a des contacts privilégiés avec nos salariés et je peux vous garantir que nos salariés nous écoutent, nous entendent et savent aussi très bien que leur gagne-pain, c'est le fait qu'on soit ouvert et que ça passe par la vaccination.
Merci beaucoup Christophe Stouck d'avoir été avec nous, restaurateur et vice-président de l'UMI à Nice, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Merci à Nicolas qui était avec nous également au 32-16. On est avec Sébastien qui nous appelle de Poudis dans le Tarn. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Sébastien, toi tu es commerçant, tu es plutôt côté Laurent Neumann.
Oui, parce que je pense que ce label, c'est un coup marketing. Parce qu'au niveau de la pandémie, je vois pas ce que ça peut apporter en sécurité sanitaire que juste les commerçants et les employés vaccinés, parce que tous les clients, on ne sait pas si les clients sont vaccinés ou pas, donc le risque sanitaire reste le même.
Simplement, ça peut servir d'exemple, voilà.
Oui, tout à fait.
Donc t'es plus côté le Chypre, en fait.
Après, voilà, moi, pour moi, c'est la vaccination obligatoire.
Donc t'es plutôt côté le Chypre.
Donc t'es plutôt de l'avis d'Emmanuel, alors, ouais. D'accord.
Non, mais c'est vrai, mais l'argument qui est avancé par beaucoup de gens qui laissent des messages, c'est effectivement, t'as quand même cette peur de la radicalité des gens qui pourraient. Enfin, je veux dire, c'est vite fait, hein, un pavé dans la vitrine. Ouais, c'est quelque chose qui te ferait peur, toi, ou pas?
Non, pas spécialement. Mais pas spécialement. Parce que moi, je vois pas l'intérêt de ce label, ni au niveau du commerce, ni au niveau de la sécurité sanitaire. Donc.
Mais est-ce que tu veux. T'as des salariés ou pas, Sébastien?
Oui, il y en a 10. Hein. Et sur 10, j'en ai que 8 de vaccinés. Il y en a 2 qui sont complètement réticents.
D'accord, donc c'est les discussions que vous avez entre vous, mais toi, normalement, tu, en tant qu'employeur, tu ne peux pas demander à tes salariés s'ils sont vaccinés, ça peut faire partie de la conversation.
Mais attends, quand même, c'est intéressant, raconte-nous, parce que l'ambiance, elle est comment? Est-ce que ça tend l'ambiance entre tes salariés?
Non, on prend ça sous le... Non. C'est des boutades pour l'instant, quoi, c'est pas vraiment... D'accord. Voilà. On en parle, on essaye de se convaincre les uns les autres, mais c'est pas...
Non, mais Emmanuel, d'abord, un, il faut arrêter d'avoir peur de ceux qui sont contre le vaccin. Je veux dire, si on commence par dire « Oh là là, ils sont dangereux, ça risque de provoquer des tensions, on laisse tomber, on n'en parle pas parce que ça peut créer des problèmes », tu n'avanceras pas.
Non mais là,
deuxièmement,
de l'effort de conviction.
Oui, l'effort de conviction, ça demande un effort, par définition.
Mais oui, mais voilà.
Deuxièmement, les anti-vaccins, comme tu dis, ils sont ultra minoritaires.
Mais très actifs, Laurent, très actifs.
Et donc, il faut céder. Il faut refuser d'avoir le débat.
Il faut pas céder,
mais il faut avoir le débat.
Tu vois bien que le seul souci, ça doit être l'efficacité. Donc, je veux bien que tu sois un amoureux du style, un amoureux de la méthode, etc. Mais il y a un moment où ce qui compte, c'est la sécurité sanitaire de l'ensemble des Français. Donc, moi, je veux bien qu'on essaye de convaincre, qu'on se perde dans tout un tas de débats qui vont demander du temps, qui vont prendre de l'énergie à tout le monde, etc. Mais encore une fois, on a tous beaucoup d'autres choses à faire. Les commerçants, ils ont beaucoup d'autres choses à faire. C'est leur saison. Ils ont à bosser. Ils ont à s'occuper de leurs clients, etc. Franchement, voilà. Donc, tu vas pour convaincre quelques personnes, tu vas dépenser une énergie considérable. Donc,
une fois que tu auras imposé la vaccination obligatoire et que Sébastien, parmi ses salariés, il a 2 salariés qui veulent pas se faire vacciner, il fait quoi? Il s'en sépare?
Il va se retrouver au prud'homme s'il fait ça.
Je peux pas
m'en séparer.
Sébastien, j'imagine que t'en as besoin quand même.
Qui va les sanctionner.
Attends, laisse parler Sébastien. Vas-y, Sébastien.
Oui, bien sûr. Mais après, moi, je suis partisan. Voilà, ceux qui veulent pas se faire vacciner, ok. Mais à ce moment-là, ils assument. Ils signent refus de soins. Le jour où ils chopent le Covid, et bien ils restent devant les urgences.
J'ai regardé Sébastien.
Ils prennent pas la place d'un autre, quoi.
Ouais, voilà. Sébastien, j'ai regardé en Italie. En Italie, on a imposé la vaccination obligatoire au personnel soignant. La première étape, ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner, on les a mis en demeure. Et puis deuxième étape, on les a mis à pied sans salaire. Et puis, troisième étape, ils ont été obligés de quitter la fonction publique hospitalière en Italie.
Là, c'est quand le vaccin est obligatoire pour certaines professions.
Je parle de la vaccination obligatoire en Italie pour les personnels soignants. Donc, on a fonctionné par étapes.
Mais ce que je veux dire, c'est que...
Résultat, 98% du personnel hospitalier est désormais vacciné.
Oui, mais tu as rendu la vaccination obligatoire. Et donc, après, les procédures, elles sont simples.
Il y a un petit détail.
T'es plus dans le débat, la discussion,
etc. Il y a un tout petit détail qu'on oublie de mentionner. C'est qu'en Italie, on a imposé la vaccination obligatoire à un moment où les personnels soignants dans les hôpitaux étaient déjà vaccinés à 85%. Donc il s'agissait juste d'aller chercher par les bretelles les derniers, soit les hésitants, soit les récalcitrants. Et à l'arrivée, effectivement, on est à 98%. On n'est pas du tout, on n'en est pas là en population générale. On est loin d'en être là. Même dans les pays qui ont été très vite, très forts sur la vaccination, je pense à Israël, à la Grande-Bretagne, aux États-Unis, on voit bien que dans tous les pays du monde, on arrive à un stade, à une sorte de plafond. Et c'est pas des récalcitrants au vaccin. Ce sont des gens qu'il faut convaincre. Alors toi, tu dis, la schlag, obligé. Voilà, c'est comme ça. T'as pas le choix. Tu discutes pas. Moi, je pense que c'est mieux de convaincre quand même.
Merci Sébastien d'avoir été.
Vas-y. Le personnel soignant, c'est pas pareil. Ils ont fait le serment d'Hippocrate, donc ils doivent protéger la population.
Ouais, je suis d'accord avec ça.
Ils vont contre leur serment s'ils font pas le vaccin. Voilà. Après, pour tous les autres qui bossent, tous les autres, ils font pas le vaccin, Je veux pas les virer de mon entreprise. Je peux pas de toute façon.
Évidemment.
Et après, il faut qu'ils assument derrière les conséquences.
Ouais, voilà, merci Sébastien d'être venu débattre avec nous sur avec RMC. Plaisir. On est avec Frédéric qui nous appelle de Dolomieux, qui est installateur en éléments de sécurité. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Toi, tu as l'impression que ça va stigmatiser dans les restaurants, les restaurants vaccinés, non vaccinés.
Exactement, complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des concurrences. On a déjà beaucoup de concurrence entre les restaurants. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des restaurants qui seront labellisés et d'autres qui ne le seront pas. Pour labelliser, si j'ai bien compris, il faudra être vacciné à 100%. Donc, tout le personnel. Le problème qui va se passer, c'est que qu'est-ce qui va se passer pour une personne qui ne veut pas se faire vacciner, le cuistot, le serveur ou autre. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il va forcément être stigmatisé par rapport à son entourage. Donc déjà, il va être pointé un peu du doigt et ça, je suis vraiment contre là-dessus. Alors déjà, moi, je suis pour en plus la vaccination obligatoire. Donc voilà.
Mais pardon, si on arrivait à la vaccination obligatoire, ce sera la même chose. Il y aura des gens qui refuseront néanmoins de se faire vacciner.
Mais donc ils seront stigmatisés aussi. Les règles sont claires. Et la charge de la preuve ne repose pas sur le patron, sur le commerçant, sur l'individu. La charge de la preuve, elle a été établie, par la loi. Et le contrevenant, il est face à la loi. Point barre.
À ton avis, Emmanuel, comment on est passé au mois de décembre dernier de 40% de la population qui voulait se faire vacciner à aujourd'hui 81%? Et sans passer par l'obligation. On en est arrivé là par quoi? Par la pression sociale. La pression des médias, la pression des médecins. La pression de l'entourage, la pression des collègues de travail, c'est comme ça que ça marche.
On est là dans un exercice où la priorité, c'est d'augmenter le niveau de vaccination de l'ensemble de la population le plus vite possible. On n'est plus dans des choix de méthodes plus ou moins souples, plus ou moins...
Toi, tu dis c'est urgent.
On ne peut pas se permettre ce luxe. Aujourd'hui, c'est extrêmement urgent.
Frédéric,
tous ces débats ont perdu temps.
Tu attends la vaccination obligatoire pour te faire vacciner?
Ouais, tout à fait. En fait, moi, il y a une chose qui rentre en jeu, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis dans un foyer où ma femme est d'accord pour se faire vacciner. Moi, je suis d'accord pour se faire vacciner, ma femme n'est pas d'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Là, l'enfant, on a eu le cas avec sa maman qui voulait se faire vacciner. Comment on peut lui apporter un conseil? Si on lui dit, vaccine-toi et qu'il y arrive quelque chose à cause du vaccin. Attention, c'est une probabilité. On s'en veut toute notre vie. S'il lui arrive quelque chose parce qu'on ne s'est pas fait vacciner, on s'en veut toute notre vie. Du fait qu'elle soit obligatoire, il n'y a plus de questions à se poser. Le vaccin est obligatoire, ce n'est plus notre responsabilité. Ça concerne nos proches.
Oui, mais j'entends. Voilà. Mais d'abord, ce n'est pas parce que ton épouse ne veut pas se faire vacciner que toi, tu ne dois pas te faire vacciner.
Non, mais
on a des enfants. Et qu'est-ce qu'on fait?
Non mais attends, c'est bizarre comme débat. C'est pas la première fois que j'entends cet argument.
Dans toutes les familles.
Non, j'entends cet argument, mais reconnais Frédéric que c'est quand même bizarre d'avoir plus peur de la maladie que du médicament.
Tout à fait. Non mais je suis tout à fait d'accord. Mais moi je suis pour le vaccin. Mais c'est pas une peur vraiment du vaccin. C'est qu'on entend tellement de choses. C'est pas sûr encore à 100%, on sait pas vers quel vaccin il faut aller.
Là, Frédéric, pour le coup, s'il y a qu'un seul argument à utiliser, quand tu regardes la probabilité qu'il y ait une complication qui relève du 1 par rapport à quelques millions, si tu veux, si jamais la vaccination tourne mal. C'est à peu près ça les proportions aujourd'hui. Par rapport à la probabilité d'attraper le virus, de finir à l'hôpital, si tu n'es pas vacciné, enfin là pour le coup il y a pas photo. Ça, je pense que cet argument-là, il est valable. Après, pour le reste, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'encore une fois, on fait reposer sur les familles au prix d'une dégradation du climat familial. Moi, je peux te dire que dans plein de familles, je connais déjà plein de gens qui ne passeront pas Noël ensemble, si tu veux, à cause de ce sujet-là.
C'est la négation quand même de la responsabilité individuelle,
mais
que tu dis. Hein.
Mais non, Laurent.
Il faut qu'on nous impose. Mais non. Parce que moi, je veux pas prendre la décision.
Mais non, la réalité, c'est que il a totalement raison. C'est-à-dire que si jamais sa femme est hospitalisée à cause du Covid et qu'elle en meurt, toute sa vie, il s'en voudra de pas l'avoir convaincue. Alors que s'il y a la loi, moi, je trouve que c'est le rôle de la loi.
Moi, tu dors tranquille.
C'est une loi de.
Merci Frédéric, en tout cas, d'être venu débattre avec nous dans Neumann le Chypre. On vous attend au 32-16. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de mettre en place un label sanitaire pour les commerçants et les restaurateurs? C'est ce que veut faire la ville de Nice. On vous attend au 32-16 sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Neumann le Chypre.
Neumann le Chypre, on est ensemble jusqu'à 14h. La ville de Nice veut mettre en place un label sanitaire pour les commerçants et restaurateurs souhaitant indiquer leur vaccination. Bonne ou mauvaise idée pour Laurent Neumann? Bonne, c'est une pression sociale positive pour Neumann le Chypre. Mauvaise, rien n'est plus efficace que la vaccination obligatoire et on va aller au 32-16.
RMC, Neumann le Chypre.
32-16. Et on est avec Thomas qui nous appelle de Bordeaux, qui est commercial. Bonjour Thomas.
Oui, bonjour.
Pour toi, c'est une bonne idée, mais avec des mais.
Mais en fait, ça pourrait être une bonne idée, mais au final, je pense que c'est une mauvaise idée. Au départ, personne n'en avait parlé, mais après, je crois que c'est Frédéric qui a évoqué un commerçant qui a une personne dans son personnel qui n'est pas vaccinée. Elle ne peut pas avoir ce label. Donc, elle fait quoi? Donc, elle vire ou elle ne vire pas. C'est pas possible. Et autre chose, c'est que si un commerçant qui a le label, il a besoin d'embaucher quelqu'un, la personne qui va postuler, vous êtes vacciné? Non, bon, je ne peux pas vous prendre. Donc, totalement discriminatoire, à mon sens.
Mais c'est une question qu'on ne peut pas poser. Encore, je le répète, hein, mais c'est une question qu'on ne peut pas poser à un entretien d'embauche. Est-ce que vous êtes vacciné, à part si tu travailles à l'hôpital, ce n'est pas possible.
Voilà, non, mais ce n'est pas possible. Donc, au final, sur le principe, ça aurait pu être bien, mais je ne suis pas aussi radical que Emmanuel pour la vaccination obligatoire. Mais pour ce label, c'est vraiment compliqué de l'appliquer, quoi.
Mais dans les faits, c'est des conversations qu'on a tous avec des proches, avec des collègues de travail. Est-ce que t'es vacciné? Non. Oui. Non. Ah bon, t'es pas vacciné? Pourquoi t'es pas vacciné? C'est quoi tes arguments? Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire maintenant? Plus tard? Pourquoi t'attends? Etc. Et rien n'empêche de convaincre les gens avec qui on travaille. Ça arrive tous les jours dans les conversations qu'on a, non, Thomas?
Oui, mais tout à fait, ça arrive. Bon, moi, officiellement, j'ai ma première dose, j'ai ma deuxième dose jeudi. Donc, je suis pas anti-vaccin. Pour appliquer ce label-là, ça va être trop
compliqué. Je comprends ce que tu veux dire. Mais est-ce que tu fais ce travail de conviction ou de pédagogie auprès des gens qui te sont chers, tes amis, ta famille, tes collègues?
J'y suis arrivé. Parce qu'au début, j'étais le premier contre. Officiellement, voilà, j'étais l'ARN pour moi, c'était nouveau truc. En fait, après, j'ai regardé les émissions, j'ai vu une émission sur M6 où il y avait le patron de Moderna qui parlait un peu de la technologie. Et en fait, ça m'a conforté, ça m'a rassuré. Et du coup, cette vidéo, je l'ai montré à ceux qui étaient réfractaires. Et ça les a rassurés aussi, du coup. Voilà. Donc, bon, moi, j'essaie de faire mon travail de mon côté, mais bon, je peux pas tout faire. Mais après, au niveau du pass sanitaire, ça va. Par rapport à un commerçant qui ne peut pas le faire parce qu'il y a un salarié qui n'est pas vacciné pour raison X ou Y, il ne pourra pas l'avoir. Donc, voilà, qu'est-ce que ça va lui amputer comme client, voilà. Donc, c'est très compliqué.
Alors, l'impact clientèle, c'est vrai que c'est difficile à mesurer. Thomas, reste avec nous. On est avec Eddy qui nous appelle de Marseille. Eddy, toi, tu es chef d'entreprise. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Dans Neumann le Chypre. Toi, Eddy, tu as eu le Covid, tu n'es pas vacciné, oui. Tu ne comptes pas te faire vacciner.
Non.
Et s'il y avait ce label sur une devanture, tu n'irais pas dans un restaurant?
Ah non, j'irais plutôt dans celui s'il n'y a pas le label.
Et pourquoi?
Pourquoi ? Parce que je trouve complètement aberrant de forcer les gens déjà à se vacciner, comme j'ai dit à votre collègue, sachant que la phase de test n'est pas finie, finira en 2023. On ne connaît pas les résultats qui peut se passer par rapport à cette vaccination. La dernière fois, j'ai écouté Sud Radio, il y avait un débat avec un docteur où il y a eu 170 vaccinés en Angleterre, il y a eu 60 morts sur ces 70 vaccinés à la première dose. Pour le moment, je ne suis pas contre le vaccin, mais je préfère voir par la suite ce qui va se passer et je trouve aberrant de faire une sélection. Là, c'est une dictature à dire, ben voilà, toi, t'es vacciné, tu peux signer. Toi, t'es pas vacciné, tu peux sortir.
Donc, j'imagine, Eddy, que tu serais totalement opposé à la vaccination obligatoire.
Ah, entièrement. Mais de toute façon, si elle est obligatoire, ben, on me mettra en prison s'il faut, mais je me ferai pas vacciner.
Et qu'est-ce qui te fait douter, Eddy? Est-ce que c'est la technologie des vaccins qui te...
C'est-à-dire qu'il faut un recul. Je veux dire que quand on est sur un vaccin où les phases de test finiront en 2023, donc en fait on est les cobayes. C'est nous.
Ça c'est valable. Par exemple pour les nouveaux vaccins, ce qu'on appelle les vaccins à ARN messager, mais les vaccins qui reposent sur des technologies anciennes.
Non mais pardon, Emmanuel, je te coupe. Pardon.
Sur les technologies anciennes, on refait. Mais on n'a pas eu de phase de test.
Eddy. Les vaccins ont des effets secondaires. Ça ne fait aucun doute. Aucun doute, c'est vrai, il y a des effets secondaires. Il y en a peu, mais il y en a. En revanche, les effets secondaires, ils surviennent dans les heures ou les jours qui suivent la vaccination, mais pas 10 ans après. Il y a eu des dizaines et des dizaines de vaccins créés depuis 120 ans.
Le problème, il va avoir des effets secondaires, mais bon, s'il y a des morts, des fois, des effets secondaires, si ça tombe sur moi, alors c'est bien bon, on est en train de nous culpabiliser en disant il faut se faire vacciner. Mais si demain, ma femme se fait vacciner et meurt par rapport au vaccin...
Eddy, j'entends, mais ce qui devrait te faire flipper, ce qui devrait te faire faire des cauchemars, c'est pas les éventuels cas de mort liés au vaccin, c'est les cas de mort liés au virus.
Moi, j'ai été traité, je l'ai eu, le vaccin.
Bah, d'accord, mais en France, il y a eu 111 000 morts du virus. Il y a eu combien de morts du vaccin?
Je ne sais pas combien.
Tu sais très bien qu'on n'est pas dans ces proportions-là.
Tu plus que ça. Et puis, comme je disais, le coronavirus, c'est une grippe. C'est dans les grippes. Un coronavirus, c'est une grippe, comme les H1N1 ici de suite.
Mais non, la grippe, les pires années, elle a tué 10 000 personnes par an.
Je suis d'accord.
Là, on est à 111 000.
Non, mais je suis d'accord, mais un coronavirus, c'est une grippe. Donc déjà, on est sur une très mauvaise grippe, je suis entièrement d'accord. C'est une très, très mauvaise grippe.
Mais en tout cas, toi, même si ça devient obligatoire, Eddy, tu dis non.
Non, je dis non, entièrement non. Tant que les tests ne seront pas finis...
Donc toi, si j'entends bien, tu te vaccineras, ouais, c'est ça, en 2023.
2023, suivant les résultats comme ils seront, il n'y aura pas de problème. Je ne suis pas anti-vaccin. Mais c'est
un peu quand même.
J'attends que les phases de tests soient finies. Elles ne sont pas finies.
Non, mais c'est...
Bon, convaincra pas Eddy, il attendra 2023. T'auras peut-être le vaccin Sanofi, du coup, il sera entre-temps, il sera produit, tu pourras prendre le vaccin français. Merci beaucoup Eddy d'avoir été avec nous. Salut Eddy, à bientôt. On était aussi avec Thomas juste auparavant. Merci à lui d'être venu débattre avec nous dans Demain le Chip. Lisa Marie, quel est le résultat des votes?
Vous êtes très partagé sur ce label sanitaire que veut mettre en place la ville de Nice. Vous êtes finalement 56% à trouver que c'est une mauvaise idée.
Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est 50-50? Mais t'as soulevé un grave problème, Laure.
De toute façon, this is not possible, en fait. Hein. Ouais. On peut pas demander à ses salariés s'ils sont vaccinés ou pas. Donc, je pense que le cas du label est réglé.
On est dans le cadre de l'incitation.
Non, mais parce que
il y a aussi. C'est pas faisable,
en fait. Attendez, n'oubliez pas qu'il y a aussi beaucoup de commerçants qui n'ont pas de salariés. Donc quand t'es commerçant, que t'es bijoutier, que t'as ta boutique, que t'es tout seul dans ta bijouterie ou que t'es tout seul dans ton magasin de vêtements, etc. Là, c'est ton libre arbitre à toi qui joue. Oui.
Voilà, si t'es tout seul, évidemment, c'est plus simple. Allez, on va jouer. C'est quoi ça?
RMC Neumann le Chypre.
Le c'est quoi ça?
Et on joue au c'est quoi ça avec Isabelle et Richard. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Oui, bonjour toute l'équipe.
Salut à tous les deux. Isabelle, tu nous appelles de Marseille dans la Vienne. Tu es aide à domicile. Tu veux jouer avec Laurent ou avec Emmanuel?
Avec Laurent.
Salut Isabelle.
Bonjour, Isabelle, Richard, toi. Salut. Tu es à Avignon. Allez, tu es retraité, mais tu étais prof de danse et tu joues avec Emmanuel.
Voilà.
On joue la pour gagner un week-end dans les hôtels Ballantine.
Non,
pour...
Baladin.
Baladin.
Non, mais Ballantine, n'importe quoi.
Ballantine, on n'a pas le droit de faire de la pub pour de l'alcool. Ouais,
vous savez. Non, mais parfois, elle dit n'importe quoi.
C'est vrai.
Mais on ne sait pas pourquoi.
Je dis n'importe quoi. Donc, c'est les hôtels Baladin et c'est pour 2 jours et pour 2 personnes. C'est parti. Isabelle et Richard, vous buzzez avec votre prénom avant de donner votre réponse. C'est question entre Isabelle et Richard. C'est le jour J pour les élèves de terminale qui vont découvrir s'ils ont réussi ou non à le décrocher avec ou sans mention. De quoi s'agit-il ?
Richard, oui, c'est Isabelle. Le bac.
Richard, le bac. Premier point pour Richard. Question entre Laurent et Emmanuel. Quelles équipes s'affrontent ? Oui.
Ce soir, c'est l'Italie contre l'Espagne.
Absolument, en demi-finale de l'Euro. Question entre Isabelle et Richard. Quel événement déroule son tapis rouge dès aujourd'hui sur la Croisette ?
Richard.
Oui, Richard.
C'est le cinéma.
Oui.
Oui.
Ça s'appelle Festival de Cannes.
Oui, oui, le Festival de Cannes.
Oui, Richard, oui.
Absolument. Question entre Laurent et Emmanuel. Qui seront les porte-drapeaux de la délégation ? Vas-y, t'écoute.
Alors, attends, il ne faut pas que je me trompe.
Je ne sais plus, moi.
C'est Clarisse Agbenenou.
Oui.
Bien joué, ça.
J'ai bon ?
Ouais,
oui, c'est ça.
Bon,
et, attends, c'est le gymnaste. C'est Samir Aïd. Aït Saïd.
Ah, bravo.
Ouais,
Samir
bravo.
Aït Saïd.
Même si c'est
trop large. C'est bravo. C'est
bravo. Je l'aurais donné, bravo.
Il y en a une qui est judoka et l'autre qui est gymnaste.
Question, on est à 2 points par contre.
Non, 3-1. Tu rigoles ou quoi ?
Non, 3-1.
Mais non,
ouais, je confirme.
Et Richard, 2 points, moi 1 point, ça fait 3.
D'accord.
Ah oui, c'est ça, oui.
Bah oui.
Il faut que je fasse une sieste. Question entre Emmanuel et Laurent. Quelle appellation sera désormais interdite?
Mais non, c'est Laurent vient de répondre sur les gymnastes.
Ah oui, pardon, mais c'est dur aujourd'hui. Question entre Isabelle. C'est ton dernier C'est quoi ça, Emmanuel?
Mais oui, c'est mon dernier C'est quoi ça. Je suis motivé comme jamais.
Après, il est en vacances. Attention, soyons prêts. Question entre Isabelle et Richard. Quelle appellation sera désormais interdite en Russie pour les bouteilles françaises qui seront désormais estampillées?
Allez, Richard.
20 pétillants.
Isabelle,
ça pétille.
Richard, Isabelle contrôlée. Richard, c'est appellation contrôlée.
Oui, mais de quoi? Isabelle,
quel produit?
De l'alcool.
Ça se boit avec des bulles.
Oh
Isabelle,
non, ça va.
Du champagne.
Ouais. Richard, c'est pour
le champagne.
Non, c'est pour Richard, le champion.
Aïe.
On est à 4-3, ça n'est pas terminé.
Non, 4-1.
On est à 4-1, je ne sais pas combien on est. C'est un cauchemar.
Alors, pour mon dernier, c'est quoi ça? Tu m'offres ta pire prestation de l'année. Franchement.
On est à 4-1 pour qui? Pour Richard. Donc, c'est Richard qui gagne le C'est quoi ça?
Richard,
toi qui gagne le séjour pour 2 personnes dans les hôtels Baladin. C'est bien ça. Merci à tous les deux d'avoir joué avec nous. Restez avec nous dans un instant sur RMC. On va parler des retraites pour les Français. L'âge idéal pour partir à la retraite, c'est 58 ans. Pourtant, dans la réforme, on a plutôt l'idée de
54 ans.
58 ans, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Pour Laurent, c'est oui. Quand on a commencé à travailler tôt ou qu'on fait un métier pénible, pour Emmanuel, le chiffre, c'est non. Et c'est le signe que les gens ne veulent plus faire d'efforts. Préparez-vous, les feignasses.
C'est la décadence.
On vous attend au 32-16. À tout de suite.
RMC, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et leur closier.
Salut les amis, très heureux d'être avec vous. On continue à débattre jusqu'à 14h sur RMC. C'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Closier. On est ensemble jusqu'à 14h. Parce qu'à 14h, il y a Tour de France. Aujourd'hui, vous venez de l'entendre avec Arnaud Souk. On continuera à suivre bien sûr le Tour aujourd'hui. À 13h50, c'est bon à savoir de l'info et de la bonne humeur avec Lisa-Marie Marquez. On parle de quoi, Lisa-Marie, aujourd'hui ?
Eh bien, c'est la journée mondiale du baiser aujourd'hui. Alors, on va parler
Baiser, toi.
Non.
Oh là là.
Chacun.
Eh ben, tu feras un effort.
Tu feras un effort.
Justement, c'est vraiment le grand bien de la crise sanitaire, la fin des bisous. Mais avant de dire des horreurs, on va parler retraite. Si je vous demande comme ça, dans l'idéal, jusqu'à quel âge vous aimeriez travailler, qu'est-ce que vous répondez? Eh bien, je vous laisse réfléchir, mais cette question a été posée aux Français ces derniers jours par l'Institut de sondage Apidemix pour le compte de l'assureur Aviva. Résultat, 58 ans, c'est l'âge moyen idéal pour partir en retraite selon les Français, soit 6 ans avant les 64 ans que le gouvernement souhaiterait faire passer dans sa réforme et 5 ans avant la moyenne européenne. Une réforme qu'il faudra faire de toute façon, selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. On l'écoute, c'était sur France Inter il y a quelques jours.
s'il y a une chose qui est exclue, c'est de se mettre sur pause pendant 10 mois. Et que non seulement on va poursuivre les réformes, mais on va les amplifier. Mais aussi des réformes pour accroître la relance. C'est ça nos grandes priorités. Et la question des retraites se pose. Et là-dessus, il y a une décision qui sera prise prochainement.
Alors, ces Français qui veulent partir à 58 ans à la retraite, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur temps? Eh bien, grande majorité se consacrer à leur famille, changer de vie pour une partie d'entre eux ou carrément profiter juste de la vie. Voilà, c'est tout, c'est simple. Alors, notre question, est-ce que c'est vraiment raisonnable de vouloir partir à 58 ans à la retraite? Laurent, pour toi, c'est oui.
Ben oui, attends, je comprends, moi, franchement.
Ceux profiter. Qui
ont... Quoi? Ben oui,
mais
je comprends même pas que ça vous étonne. C'est normal que les gens se disent on a envie de partir le plus tôt possible, etc. Ben oui, certains ne s'épanouissent pas autant que vous d'abord dans leur métier. D'autre part, pardon, mais il y a des métiers plus pénibles que d'autres.
Ah, ça,
et puis
clair,
parfois,
oui.
On a commencé très tôt à travailler. Et d'ailleurs, je vais te dire le fond de ma pensée, je ne comprends pas ce débat sur l'âge de la retraite. D'abord, en France, l'âge moyen auquel on prend sa retraite, c'est 62,8 ans. 62,8 ans. Donc on est loin des 54 ans. Hein. On est loin d'un peuple
58.
Des 58 ans, pardon.
54, c'est pas encore.
On est loin des 58 ans, pardon. Et donc on n'est pas du tout un peuple de feignants comme certains voudraient nous le faire croire. Deuxièmement, l'âge de départ à la retraite, au fond, n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est combien d'années vous avez cotisé. Or, en France, selon votre année de naissance, on est entre 41 ans et 43 ans. D'accord. En Allemagne, par exemple, c'est plus, c'est 45 ans. Mais en Grèce et au Portugal, c'est moins, c'est 40 ans. Chez nous, c'est entre 41 ans et 43 ans. Fais un petit calcul, tu vois. Et c'est une addition, elle est très simple à faire.
C'est plus compliqué que les équations.
Tu as commencé à travailler à 18 ans. D'accord.
Oui.
Imaginons.
Non, oui, non, mais ok.
Imaginons, tu as commencé à travailler à 18 ans. Il faut que tu travailles 42 ans. À quel âge tu peux prendre ta retraite? 18 et 42, 60, merci. Il faut que je t'aide un peu, très bien. Maintenant, si tu as commencé à travailler à 16 ans, pourquoi pas prendre ta retraite à 58 ans?
Eh bien, tout à fait.
16 ans plus 42, ça fait 58. Ce qui est important,
c'est
le nombre...
Des gens qui ont commencé à 16 ans, évidemment, il y en a.
Eh bien, voilà.
Il y en a peu.
Ben, d'accord, mais il y en a. Donc, pour moi, la question n'est pas de savoir à quel âge tu prends ta retraite, la question est de savoir combien d'années tu as travaillé. Voilà. Okay. C'est ça le plus important.
Mais ça, Emmanuel, t'es d'accord, hein?
Alors moi, si tu
non,
veux,
lui est pas d'accord.
Non, 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 mais là où moi je peux en partie rejoindre Laurent, c'est sur la simplicité du système qu'il faudrait mettre en place. C'est pour ça que moi j'ai toujours été favorable à ce fameux système par points, mais intégral. C'est-à-dire que moi j'ai un système
avec
très simple.
Point de pénibilité,
vous bossez, vous accumulez des points pour votre retraite. Si, et plus vous accumulez de points, plus vous touchez une retraite élevée. Voilà. Donc, si vous voulez pas bosser beaucoup, et si vous voulez vous arrêter à 50 ans, à 52 ans, bah, vous prenez la retraite qui correspond au nombre de points que vous avez cotisé. Moi, je suis contre les âges minimaux, etc. Laissons à chacun la liberté de décider de sa vie. Moi, ce qui m'étonne.
Il y a un petit souci quand même dans la retraite par points, c'est que personne n'est capable de nous dire si le point sera pérennisé.
Sauf que.
Donc, n'importe quel gouvernement peut décider de monter ou de baisser le point.
Oui,
c'est le seul souci,
Laurent,
d'ailleurs.
De facto, quand on ajuste les paramètres de la retraite par répartition actuelle, sur.
Personne n'a jamais baissé les pensions.
Non, mais d'accord. Mais la durée de cotisation, tout ça, bon, on l'ajuste en fonction de. Voilà. Donc, quand tu commences ta carrière, même avec le système par répartition, tu n'es pas capable de dire combien tu toucheras à ta retraite. Non, moi, il y a pas mal de choses qui m'étonnent quand même dans cette idée de partir à la retraite à 58 ans. C'est-à-dire qu'à. On vit quand même, rappelons-le, jusqu'à 79 ans pour les hommes, 85 ans pour les femmes. C'est-à-dire que, en fait, on aura bossé une partie de sa vie qui correspond quoi? Allez, à une grosse moitié de sa vie.
Les deux tiers.
Et en plus, quand tu écoutes les gens à 58 ans, ils ont plus du tout envie de bosser. Plus du tout envie de bosser, alors qu'il faut le rappeler. D'abord, le travail, c'est la santé. Rappelez-vous, je vous cite plein d'études.
Oui.
Non, mais il y a plein d'études qui montrent que les travailleurs, les gens qui travaillent plus longtemps, sont en meilleure santé. Et puis, est-ce qu'on aura besoin, au niveau de la société française, de travailler plus? Oui, bien sûr qu'on en aura besoin. D'abord parce que je vous rappelle que le salario entre retraité et actif, aujourd'hui, il est tombé à 1,7. Donc, 1,7 cotisant pour un retraité. Dans les années 50, on était à 5. Deux, on nous dit, il y a tout un tas de dépenses publiques nouvelle qu'il va falloir financer. Il va falloir financer plus de dépenses d'éducation, il va falloir financer plus de dépenses de santé, il va falloir financer la dépendance et le quatrième âge, etc., etc. Donc si vous voulez qu'il y ait des ressources à redistribuer, il faut d'abord qu'on crée beaucoup de richesses. Et donc, il faut travailler.
Et pour ça, il faut travailler plus longtemps. Il faut créer de l'emploi.
Mais, on peut pas s'arrêter de travailler non plus à 58 ans. Donc, moi, c'est ça qui m'étonne un peu.
Non, mais attends, 58 ans, d'abord, on est bien d'accord, hein, c'est un sondage. Oui, mais c'est un âge moyen, etc.
Un sondage sur l'idéal.
Oui. C'est-à-dire que les gens, dans l'idéal, ils pensent que 58 ans, arrêter de bosser, c'est bien. Alors qu'en 58 ans, à 58 ans, t'en as la plupart qui sont quand même en excellente forme. Et moi, alors, je pense qu'il y a un rapport, du coup, et je m'arrête là, je pense que ça dit des choses sur le rapport au travail et à la valeur travail. Je pense qu'on a, voilà, on a atteint un niveau dans nos sociétés où, malheureusement, le travail n'est plus une valeur cardinale. Non, mais... C'est le début du déclin de tous les grands empires. Mais après tout, tout ça est cyclique à l'échelle de l'histoire. Il faut s'y habituer. Nous entamons notre déclin.
C'est les déclinies, c'est l'Empire romain qui chute,
etc. C'est la réalité, Laurent. Mais attends, sérieusement, tu peux pas dire le contraire.
Sérieusement.
Tu peux pas dire le contraire.
Si je te dis, Emmanuel, idéalement, si t'avais le choix, combien tu aimerais avoir de semaines de vacances dans l'année? Tu vas me dire, j'aimerais bien prendre 3 mois de vacances dans l'année. C'est dans l'idéal. Tu peux très bien comprendre que ça n'est pas possible, mais dans l'idéal, c'est ce que tu souhaites.
Moi, l'idéal, ça ne veut pas dire que t'es un fait. Si tu me poses la question, tu mets le doigt sur un point. Une semaine de 4 jours, moi, je trouve qu'on vraiment c'est bien la semaine de 4 jours.
Et puis 3 jours pour aller au spa.
On va pas assez au spa, je ne fais que de le dire.
Voilà. Tu mets le doigt sur quelque chose de fondamental. C'est que moi, je déteste cette idée de bosser 40 heures par semaine jusqu'à éventuellement tes 58 ans et après tu fais plus rien. Mais non, moi je suis pour justement quelque chose en sifflet. Moi ce qui me sidère le plus. C'est-à-dire qu'en gros tu vas progressivement, si tu veux, tu veux plus bosser à temps plein parce que c'est trop, tu veux avoir 3 mois de vacances et tu continues à bosser, etc. Moi ce qui m'étonne c'est que les gens ne veulent plus bosser après 58 ans.
Une vision globale sur toute la vie,
que les gens disent par exemple à 58 ans, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de faire autre chose.
J'ai envie de me faire un nouveau défi,
une nouvelle aventure.
Mais pourquoi les salariés te parle du tout ou rien, c'est parce que les employeurs te proposent pas
mais
ce que
tu t'es dit. Ça n'est pas que la faute des salariés, bien entendu. Bien entendu, tu as raison, ça n'est pas que la faute des salariés.
De plus en plus, les employeurs proposent de faire des carrières hachées, des projets, on valorise les parcours associatifs dans les entreprises, etc. Lisa Marie, on peut voter sur le réseau.
Oui, je vous rappelle notre question. La retraite à 58 ans, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Vous pouvez nous écrire, nous répondre sur Twitter, sur Facebook et sur l'application RMC.
Ouais.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
En fait, 58 ans, c'est pas raisonnable, mais c'est bon.
On était avec Alexis qui a 22 ans. Et Alexis, il a 22 ans.
En fait, t'as tout dit.
Il nous appelle.
C'est pas raisonnable, mais c'est bon.
De 3. Bonjour, voilà. Alexis.
Bonjour à tous.
Salut, Alexis.
Toi, t'es étudiant en droit et tu travailles en même temps dans la grande distribution. 58 ans, ça te paraît quoi? Raisonnable, pas raisonnable?
Moi, personnellement, je trouve que c'est pas raisonnable. En tout cas, avec le système de retraite actuel, en fait.
Ouais.
Parce qu'en fait, c'est une question de logique. L'espérance de vie de l'homme, elle va augmenter. Enfin, en tout cas, en France, vu que c'est un pays développé, enfin, en tout cas en France, l'espérance de vie va augmenter. Et du coup, si demain elle augmente de 4 ans, il va forcément y avoir un trou dans les caisses. Et donc, il va falloir augmenter l'âge de départ de 4 ans.
Ouais.
Donc, à partir de ce constat-là, qu'on dit qu'on veut partir à partir de 58 ans, je trouve que c'est un peu utopique.
Alexis, si je te dis par exemple qu'en Allemagne, l'Allemagne est le pays où il faut cotiser le plus grand nombre d'années, et ce nombre d'années, c'est 45 ans. Nous, on est déjà, réforme après réforme, à 43 ans. Donc on n'est pas du tout parmi les pays les plus laxistes, loin de là. Je te prends l'exemple de la Grèce ou du Portugal, c'est 40 ans seulement, c'est 3 ans de moins, 5 ans de moins qu'en Allemagne. Donc on n'est pas du tout dans les pays laxistes, feignants ou je ne sais quoi. Ce qui importe, c'est le nombre d'années où tu as cotisé, où tu as travaillé. Voilà, on se fout de savoir à quel âge on part à la retraite.
Mais je suis d'accord, mais c'est pas le système actuel, c'est ça le problème.
Ça devrait, je comprends ce que tu dis.
Mais avec le système actuel, c'est pas possible en fait. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça. Et du coup, forcément, par exemple, moi, quand je vais avoir 50 ans, si le système il change pas, peut-être que l'âge de la retraite il va être à 66, 67, il va augmenter.
Ouais.
Voilà.
Oui, mais la question sera de savoir, Alexis, à partir de quel âge tu as commencé à travailler. Toi, je vois que tu es étudiant en droit et qu'en même temps, tu travailles dans la grande distribution. Peut-être, tu as peut-être un salaire mensuel, donc ça veut dire que tu as commencé à cotiser très jeune.
Je suis d'accord, mais le problème, personnellement, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre sur mes plans quelqu'un qui a fait 5 ans d'études et qui n'a pas commencé à travailler, et on va le mettre sur mes plans que quelqu'un qui a pas, enfin, qui a quelqu'un qui a fait des études, on va le mettre sur le même plan que quelqu'un qui a pas fait d'études, qui a travaillé plus tôt.
Et bah, tu mets le doigt sur un sujet qui est fondamental.
Pas égalitaire, moi.
Et Alexis, tu mets le doigt sur un sujet fondamental. Est-ce qu'il faut, par exemple, que tes années d'études soient transformées en trimestres de travail au moment de calculer le nombre d'années où tu as travaillé? C'est un vrai sujet.
Non, mais Laurent, il y a un problème.
Est-ce que ça marche si t'as fait 4 fois une première année?
Mais peu importe.
Non, mais le sujet, c'est pas ça. Non, mais là, tu pousses le bouchon quand même un peu loin parce que tu recrées de. Alors là, tu crées de l'inégalité massive. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Celui qui fait des études, il va toucher des salaires beaucoup plus élevés. Donc, si tu veux, il aura peut-être moins cotisé, mais il a fait un investissement quand il était étudiant. Donc, il a peut-être pas cotisé pour sa retraite, mais il va se rattraper plus tard, puisque sa retraite dépendra de ses niveaux qui ont été plus élevés que celui qui avait pas fait d'études. Tu veux pas, en plus, si tu veux, lui redonner de l'argent en plus, parce que il a fait ses études.
Oui, alors,
prenons
l'exemple d'un médecin. Un médecin, il fait en moyenne 10 ans d'études. En moyenne. 10 ans d'études. Imaginons qu'il ait médecine du premier coup. Ça veut dire qu'il rentre sur le marché du travail à l'âge de 28 ans. Tu rajoutes 42 ans ou 43 ans d'annuité, ça veut dire qu'il faut qu'il travaille mécaniquement jusqu'à 71 ans pour avoir sa retraite à taux plein. C'est pas juste.
Alexis.
En études, par rapport à celui-là qui les a arrêtés, il s'est donné les moyens, en tout cas, d'avoir un salaire plus confortable et un travail, imaginons, qui ne soit pas pénible. Enfin, je veux dire, quelque part, je vois pas pourquoi il partirait à la retraite plus tard, ou, enfin, je comprends pas, moi. Puisqu'il s'est donné les moyens, les moyens en amont, en fait.
Ben, prenons l'exemple inverse. Prenons un jeune homme qui rentre en apprentissage à 16 ans. Il veut devenir maçon. Il travaille pendant 42 ans. Ben, 16 plus 42, ça fait 58 ans. C'est pas absurde. Je suis désolé s'il a cotisé pendant 42 ans de le laisser prendre sa retraite à 58 ans. C'est pas autorisé dans ce pays, mais pardon, ça devrait l'être.
Ouais.
Moi, je pense que le meilleur.
Enfin,
je sais pas ce que tu penses, mais le meilleur des systèmes, moi, je pense que voilà, tu fais une retraite à points et tu
avec
pars.
Avec les facteurs pénibilité,
tu corriges avec tout ça et tu pars quand t'as envie de partir. Le jour où tu considères que ta retraite, elle a atteint un niveau que tu juges souhaitable, acceptable, hop, tu t'en vas, quel que soit ton âge.
Attends, d'abord, il faut dire la vérité, il y a beaucoup de gens qui sont contraints de prendre leur retraite, qui arrêtent de travailler d'abord, bien avant d'être à la retraite et contre leur gré. D'accord, parce qu'ils trouvent pas de boulot. D'autres qui continuent à travailler.
Dans ces cas-là, ils sont au chômage, ils sont pas à la retraite.
Bah oui, mais il y a un moment donné où t'as perdu tes droits au chômage. Quand après 55 ans, t'as le droit à 3 ans de chômage, pas plus, hein. Pas plus. Donc il y a beaucoup de gens qui continuent à travailler parce que leur retraite serait trop faible pour vivre décemment. Donc ils sont obligés de continuer jusqu'à un âge où ils aimeraient bien arrêter avant. Donc il y a des cas de figure totalement différents.
Oui, ça, Laurent, tu trouveras, je pense, personne pour te dire le contraire. On vous attend au 32-16.
Je crois que tu viens de me renvoyer dans les cordes.
Mais non, mais tu dis, il y a plein de cas différents. Et oui, bah oui, oui. Mais oui. Dans un instant, c'est avec Philippe Crevel.
Système à la carte.
Directeur du Cercle de l'Épargne. Un grand merci à Alexis d'avoir été avec nous dans Neumann le Chypre. Vous ne bougez pas, on revient sur RMC.
RMC, Neumann le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel le Chypre et Laure Closier.
Neumann le Chypre, le retour, on est ensemble jusqu'à 14h. Les Français voudraient, dans l'idéal, partir à la retraite à 58 ans. Est-ce que c'est vraiment raisonnable pour Laurent Neumann? Oui, quand on a commencé à travailler tôt ou qu'on fait un métier pénible. Pour Emmanuel le Chypre, non, c'est le signe que les gens ne veulent plus faire d'efforts. Lisa Marie,
la décadence,
c'est terrible, vous ne voulez plus rien
historiquement
faire.
Historiquement, personne ne peut le nier. Ça, c'est Laurent,
que les
rigolette.
Gens ne veulent rien faire.
Non, que je veux dire, chaque grand pays, chaque civilisation.
Mais je t'ai dit ma théorie. Les
gens, c'est le déclin.
On est le pays où les gens qui ont un travail travaillent le plus.
Oui, mais il y a pas.
Donc c'est pas la décadence. Eh ben voilà.
Mais c'était pareil avant.
C'est tout le problème. Le problème, c'est qu'il y a pas assez de gens qui ont un travail.
C'est pareil.
Bah oui.
C'était tellement mieux avant. Lisa Marie, quelle est la première tendance?
La retraite à 58 ans, vous êtes 70% à répondre non, ce n'est pas raisonnable.
Formidable, bah oui. Mais ils sont rationnels.
Ils veulent travailler,
non, mais attends,
finalement.
Ça me rassure. Non, mais attends, Laure, moi, oui, si tu me poses la question, est-ce que c'est raisonnable, je te dis non. C'est pas raisonnable.
Non, mais toi, t'as pleuré quand t'as appris qu'il y avait un ministère du temps libre dans le gouvernement de François Mitterrand en 1980.
Est-ce que tu te souviens comment il s'appelait?
Monsieur Henri.
Il y avait un ministère du temps libre.
Absolument, oui, 1980. Ministère du temps libre en 1980.
Donc du temps libre qui t'organisait ton temps libre.
Ben non, on a réduit le temps de travail et.
Mais j'y arrivais quoi dans ce ministère?
Et ben, on s'occupait de t'organiser tes loisirs.
Eh bien, quelque chose me dit que le ministre avait beaucoup de temps libre.
Non, voilà. Mais c'est une agence de voyage, c'est quoi?
Mais non, c'était histoire de.
On ne sait pas. On est avec Gilles qui nous attend au 32-16, qui est à Nouméa. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour.
Toi, tu es plutôt côté Laurent Neumann. Tu as commencé à travailler à 14 ans dans l'hôtellerie.
Oui, moi j'ai commencé à 14 ans. J'étais pré-apprenti jusqu'à 16 ans, 18 ans, apprenti, 18 ans, 35 ans dans l'hôtellerie, 35 ans jusqu'à maintenant, 55 ans, enseignant, pâtissier. Voilà.
Est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas pouvoir prendre ta retraite ?
Comment ?
Est-ce que tu sais exactement quand est-ce que tu vas prendre ta retraite ?
Normalement, j'ai une carrière longue, 60 ans. Mais quand j'entends parler qu'il va falloir travailler jusqu'à 64 ans, je suis plutôt pas d'accord.
Ouais.
Voilà. Ensuite, 58 ans, c'est pas raisonnable, mais c'est bon.
ça c'est Laurent Demain.
C'est ma formule. Voilà.
Bon, est-ce que c'est meilleur à Nouméa encore ?
En ce moment, oui. Covid free, c'est plutôt sympa.
Ah ouais.
Ouais, mais tu vois, alors qu'est-ce qu'on dit ?
Pas pouvoir voyager, mais
qu'est-ce qu'on dit à Gilles ? Qu'est-ce qu'on lui dit ?
Non mais Gilles, d'abord, il y a quand même quasiment 3 à 4 salariés sur 10 qui ont des métiers pénibles, qui ont commencé tôt, et évidemment, il s'agit pas d'empêcher et de t'obliger à travailler davantage, ça c'est sûr.
Ah bah mais, si tu fixes à 64 ans, si.
Non mais à 64 ans, de toute façon, tu sais très bien qu'il y a des dispositifs qui permettront aux carrières longues de partir quand même plus tôt. Moi ma question, Gilles, c'est, tu dis ok, c'est bon, mais et toi par exemple, tu t'arrêterais à 58 ans. Alors, tu envisages comment ta vie d'après, tu l'envisages
c'est
comment
pas raisonnable. Mais 60 ans, moi, 60 ouais. ans, je me sens prêt à arrêter.
Et à faire quoi alors du coup ?
Et t'as envie de faire quoi de ta retraite ?
De ma retraite ? Alors, j'ai pas trop de passion, mais je ferai plein de gâteaux chez moi déjà. Pour ma famille, pour mes amis.
Bien sûr.
Pour profiter un peu de la vie, pour voyager. Voilà, déjà j'ai voyagé beaucoup, mais là je voyagerai encore plus, si c'est possible, bien sûr. En ce moment, c'est pas trop possible. Voilà. Mais bon, moi je pense qu'il faut. Les 42 ans d'annuité, c'est très bien. 42 ans de travail, je pense que c'est bien. Tout à l'heure, il y en a un qui a dit, je crois que c'est. C'est pas Laurent, c'est.
Emmanuel ?
Qui a dit le travail c'est la santé, mais ouais. Je pense que le travail c'est la santé, mais pas pour tout le monde. Un maçon qui travaille 42 ans, un carpentier qui travaille 42 ans.
C'est pour ça qu'il faut la pénibilité, il faut prendre en compte la pénibilité de chaque métier. Reste avec nous, Gilles, on est avec Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Bonjour Philippe Crevel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Neumann le Chypre. C'est 58 ans, c'est un doux rêve.
C'est un doux rêve, ouais. Je serais plutôt évidemment de l'avis d'Emmanuel. Comme souvent d'ailleurs. Oui. Mais,
et pas Florent Neumann.
Oui, mais parce que bon, il faut quand même se poser la question. On part à 58 ans, mais avec quelle retraite ? Quel montant de retraite ? On sera 23-24 millions de retraités d'ici le milieu du siècle. Il y avait 5 millions de retraités en 1981. Actuellement, il y a 17 millions de retraités. En plus, l'espérance de vie, on a gagné 10 ans depuis 1950 à la retraite. Avant, on avait une retraite qui durait 15 ans. Aujourd'hui, c'est évidemment un progrès indéniable. Ça dure 25 ans et l'affaire du Covid ne change pas grand-chose, contrairement à ce que certains peuvent penser. Mais donc, si on ne fait rien, par définition, sauf à gréver de charges, de faire peser sur les actifs, sur les jeunes, des charges sociales qui détruiront les emplois, par définition, on va diminuer le montant des pensions. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a commencé à faire depuis 1993, sans trop le dire, mais globalement, on a érodé le niveau de vie des retraités. Ça va s'accélérer dans les prochaines années. Donc, si on met à 58 ans, alors là, l'érosion du niveau de vie des retraités, ça va être quelque chose. Donc, on va pouvoir partir peut-être à 58 ans, à 60 ans, mais avec des queues de cerises. Donc, je préfère, c'est vrai, un effort un peu plus important d'augmenter le taux d'emploi, comme on dit, des seniors pour maintenir un pouvoir d'achat et un niveau de vie correct pour les retraités, bien sûr. Comme ça a été dit, il faut tenir compte de la pénibilité, des carrières longues. C'est ce qui a été fait depuis donc, de nombreuses années en France. Mais c'est vrai qu'il faut, comme l'ont fait d'ailleurs les autres pays, la France est atypique. On est avec les Italiens le pays qui consacre le plus d'argent aux retraites. On est le pays où la retraite, la durée de vie à la retraite est la plus longue du monde. Donc on n'est pas dans une situation, on va dire, où c'est tragique. Hein,
mais attendez, Philippe Crevel, j'imagine que vous dites ça en vous félicitant de ces chiffres-là. C'est formidable que la durée de vie à la retraite soit la plus longue dans le monde. Moi, j'adore, mais je suis heureux d'être français. La question que je me pose, c'est pourquoi on focalise tout le temps sur l'âge de départ à la retraite, alors qu'on devrait focaliser sur le nombre d'années au travail. À partir du moment où on a fixé à 43 ans, hein, de 41,3 à 43 ans selon l'année de naissance, le nombre d'années où on doit cotiser. Mais c'est ça qui compte. C'est pas l'âge de départ à la retraite.
Donc Laurent, il y a ces deux critères. L'âge de départ et puis la durée de cotisation.
Oui, nous on a ceinture et bretelles, c'est vrai. Il y a un nombre d'années où on doit cotiser. Donc, et en plus, on y rajoute un âge de départ à la retraite.
Il y a plutôt une très grande majorité de pays, c'est simplement l'âge de départ. Nous, on a les deux critères. Et on a une durée de cotisation qui figure également parmi les plus longues au sein des grands pays occidentaux. La mesure, quand on allonge donc cette durée de cotisation, c'est quelque chose qui est assez progressif, qui a un effet, on va dire, sur les finances publiques moins important que quand on reporte l'âge de départ, par exemple de 60 à 62 ans, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy. Hein, ça avait fait gagner à peu près 20 milliards d'euros, quand l'autre mesure, l'allongement de la durée de cotisation, ne fait gagner que 8 à 9 milliards d'euros. Donc parce que l'effet n'est pas le même, évidemment, quand on met à 62 ans...
Non mais Philippe, pardon de vous couper, soyons concrets, on prend l'exemple de Gilles qui nous appelait il y a un instant de Nouméa. Il a commencé à travailler à 14 ans, il est apprenti depuis l'âge de 16 ans. Donc prenons même l'âge de 16 ans. Au bout de 42 ans, il a 58 ans, il devrait avoir le droit d'arrêter de travailler. Il a fait son œuvre, si j'ose dire.
Il a les dispositifs de carrière longue qui ont été mis en place depuis une dizaine d'années, qui lui permettent justement de partir avant l'âge légal aujourd'hui de 62 ans. Il peut partir avant 62 ans.
Oui, mais pas avant 60.
Carrière longue.
Pas avant 60.
Tout à fait.
Donc mais... lui, il aura cotisé pendant 44 ans. Alors, il touchera plus à la retraite, certes, mais oui. S'il avait envie de partir avec son nombre d'années de cotisation, ce serait pas choquant, pardon, qu'il parte à 58 ans, en l'occurrence.
Mais il faudrait, dans ces cas-là, je ne suis pas sûr si on lui met le dossier clé en main. Est-ce que vous voulez une retraite amputée de 20% ou est-ce que vous voulez travailler...
Oui, mais pardon, la question, c'est pourquoi amputer de 20% alors qu'il a travaillé le nombre d'années requis ?
Il y a des méthodes de calcul qui existent. Alors, il faudrait refaire l'ensemble des dispositifs de calcul. Parce que d'ailleurs, le régime par points visait justement à corriger
ce facteur-là.
L'opinion, la majorité semble avoir pris en grippe le projet de loi du gouvernement et justement, il voulait aller vers une certaine forme de neutralité. Un euro cotisé donne les mêmes droits pour tous. Mais on ne peut pas tout avoir. Hein.
Est-ce qu'il y a des pays, Philippe, dans lesquels la simplicité du système fait que on cotise un certain nombre d'années, on accumule des points et puis chacun fait ce qu'il veut avec ses points. Si on a envie de partir à 50 ans, on part avec le nombre de points qu'on a accumulé
et
un montant inférieur.
Il y a très peu de pays. Je crois, il y en a pas en Europe. C'est pas le cas de l'Allemagne, c'est pas le cas de la Suède où on peut partir à 45-50 ans avec ses points. Il y a toujours des âges d'ouverture de ses droits. En Allemagne, c'est plutôt assez haut. Se situe plutôt entre 62 et 65. Il n'y a pas de pays où c'est open bar à partir de 50 ans. Pour une raison simple, c'est que dans ces cas-là, il faut avoir un volume de points important. Ouais. Et le coût, on va dire, sur une espérance de vie de 30 à 40 ans à la retraite serait très élevé pour les régimes. Et c'est pour ça qu'on met toujours une barrière d'âge aux alentours de la soixantaine pour ouvrir les droits.
Et Philippe, quand on compare les systèmes, est-ce que les systèmes dans lesquels il y a le plus de capitalisation, c'est-à-dire en gros où chacun cotise pour sa propre retraite, est-ce que les gens ont tendance à partir plus tard ou plus tôt que dans les systèmes purs de répartition ?
Ils ont tendance à partir plus tard, parce que souvent ce sont des pays où les régimes par répartition sont relativement faibles et donc il faut avoir accumulé évidemment un peu plus d'épargne pour pouvoir être certain d'avoir un bon niveau de pension. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Corée du Sud, c'est le cas au Japon et c'est le cas également au Royaume-Uni.
Ouais, la répartition travaille moins et la capitalisation travaille plus.
Voilà.
Merci beaucoup Philippe Crevel d'avoir été avec nous, directeur du Cercle de l'Épargne. On va retourner au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Et on était avec Fabrice qui nous appelle du Plessis-Robinson, qui est routier. Bonjour Fabrice.
Bonjour à toute l'équipe.
Bon, vous êtes routier depuis 30 ans. Salut. Tu as quel âge, Fabrice ?
J'ai 49 ans.
Donc, et tu te sens déjà fatigué?
Moi, je suis épuisé. Je travaille en moyenne 60 heures par semaine. Ouais. J'ai un métier très difficile, comme tout le monde le sait, et je serais ravi de partir à 58 ans. Surtout, sachant que l'espérance de vie des ouvriers est inférieure de 8 ans par rapport à celle des cadres. Donc, Emmanuel, je veux bien que tu dises que on ne travaille pas assez, mais quand on a un métier vraiment épuisant, moi, le dimanche, je suis sur les rotules. Je ne peux pas prendre la Nationale 118 ou l'autoroute A13 pour partir en week-end, comme je le vois chaque week-end. Moi, le dimanche, je reste à la maison, je récupère de ma fatigue. Et je pense que là, à 50 ans, j'ai vraiment plus de force.
Si j'arrive à faire
encore 8 ans en pleine forme, j'aimerais bien partir à la retraite, il faut le comprendre, Emmanuel.
Ah non, mais attends, moi je suis le premier.
Encore une fois, point de pénibilité.
Moi je pense qu'effectivement, ce qui manque, c'est vraiment une plus grande personnalisation des systèmes de retraite. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, les gens qui ont des carrières longues, qui sont fatigués, mais ça,
Je te rappelle, Emmanuel, qu'au moment de la réforme de la retraite par points, qui est avortée à ce jour, la question de la pénibilité n'était pas tranchée.
Et parce que
on n'avait absolument pas un système fiable pour répondre aux questions que pose Fabrice. Il n'y avait pas.
Alors que c'est le cœur du problème.
Bah évidemment. Évidemment.
Ouais, parce que moi, c'est le cœur du problème, parce que la pénibilité fait qu'on peut travailler tard ou pas. Si on évite de parler de pénibilité, je ne comprends pas comment on peut fixer un âge de départ à la retraite. Pour moi, c'est
pour des métiers comme toi, il n'y a pas photo, mais il y a quand même eu des abus dans le passé. Il y a trop de gens aujourd'hui qui peuvent profiter du dispositif de carrière longue. On a repoussé l'âge de la retraite en 2010. C'était la réforme Éric Woerth, Nicolas Sarkozy. On est passé de 62 à 60. Quand il est arrivé, François Hollande, pour atténuer un petit peu l'effet, on reporte l'âge de départ à la retraite, il a augmenté le nombre de gens qui pouvaient accéder au dispositif carrière longue, etc. Mais on a quand même atteint des absurdités, si tu veux. Je n'ai rien à titre personnel contre les énarques, mais considérer que les énarques peuvent profiter du dispositif de carrière longue, moi je veux bien, mais enfin, est-ce que la vie d'un énarque est si dure, si difficile physiquement que
non,
que
ça s'appelle un privilège.
Voilà, donc si tu veux, je pense qu'il y a quand même, avant de s'attaquer, je ne souhaite évidemment pas m'attaquer à des métiers comme le tien, mais je pense qu'il y a quand même, si tu veux, quelques abus déjà à régler. Il y a quand même sur les 600 000 et quelques personnes qui partent à la retraite chaque année, il y en a quand même 180 000 qui profitent de ces dispositifs. Bon.
Qui partent avant l'âge.
Ouais, toutes n'ont quand même pas des métiers aussi pénibles que ça.
Merci beaucoup Fabrice d'être venu débattre avec nous dans Neumann le Chypre. On va continuer, on vous attend au 32-16 pour parler retraite. L'âge idéal de la retraite pour les Français, c'est 58 ans. On est bien loin des 64 ans qu'envisage le gouvernement. Est-ce que 58 ans, ça vous paraît raisonnable? On vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, Neumann le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel le Chypre et leur closier.
Neumann le Chypre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h. On parle des retraites. Les Français voudraient dans l'idéal partir à 58 ans. Mais 58 ans, est-ce que c'est vraiment raisonnable pour Laurent Neumann? Oui, quand on a commencé à travailler tôt ou qu'on fait un métier pénible. Pour Emmanuel le Chypre, non, c'est le signe que les gens ne veulent plus faire d'efforts. Et on a plein, mais
Pareilles. C'est pas bien de dire
tu
des choses.
Tu veux vraiment qu'ils refassent le déclin non, et l'Empire romain
ou pas? Non, ça va. Non,
okay.
c'est bon.
On va aller au 32-16.
RMC, Neumann le Chypre.
32-16.
On est avec Dominique. Dominique qui est cheminot. Toi, tu as quel âge, Dominique?
61 ans et demi.
Donc, tu es parti déjà à la retraite?
Ah non, je ne suis pas parti.
Pas encore.
Ah non, je ne pars pas.
Ah ça, les temps ont changé, Dominique.
Ouais. Les temps ont changé, ouais. Mais je veux faire une carrière longue.
Ouais.
Donc,
t'as commencé à travailler à quel âge, Dominique?
J'ai commencé à 18 ans.
Ouais.
J'ai commencé à travailler à 18 ans. Et puis, j'ai 61 ans et demi. Et je continue. Et puis, moi je peux partir au chemin de fer. Je peux partir j'aurai 68 ans et 6 mois. Et j'aurai fait 50 ans et 4 mois dans la même entreprise.
Ah, donc, mais tu vas atteindre des records,
ça sera
là.
Un record en France, parce que personne n'est capable de faire autant dans la même entreprise. Ben c'est vrai que moi, je me suis renseigné, il n'y a personne, il y a 46, 47 ans, il y en a qui l'ont fait. Mais moi, j'aurais fait 50 ans et 4 mois dans la même boîte.
Et Dominique, j'ai deux questions à te poser. D'abord, est-ce que tu as déjà calculé quel sera le montant de ta retraite à 68 ans quand tu quitteras l'entreprise?
Ouais, j'ai calculé, mais bon.
Tu veux pas nous le dire, ok?
Bah, c'est pas le sujet.
Non, mais t'as le droit. Et ouais. L'autre question, c'est pourquoi travailler aussi longtemps? À partir du moment où tu as réuni toutes tes années de cotisation.
Pour les gens qui m'écoutent, la recette, c'est, faut être passionné par son travail. Moi, je suis contrôleur depuis le 1er novembre 78. Et ça fera 43 ans, je suis le plus ancien contrôleur de France. Il faut être passionné par son boulot et par son entreprise. Moi, j'adore la SNCF et j'adore mon boulot de contrôleur. Vous voyez ? Et je suis amoureux de mon entreprise. J'ai l'esprit entreprise. Et voilà, c'est pour ça que je reste. Il y a plein de collègues qui me disent « Mais Dominique, comment tu fais pour rester dans l'entreprise ?» Moi, j'ai évolué avec l'entreprise. Depuis 78, j'ai évolué avec l'entreprise. C'est une entreprise fantastique. C'est bon, je pense que les Français, ils aiment. Je peux vous dire que les Français, ils aiment la SNCF. On la critique, bon, on est toujours en retard, tout ça. Mais bon, il faut bien que les gens, ils sachent. Il y a 98% des trains qui arrivent à l'heure. Mais c'est vrai qu'on se rappelle des 2%. Voilà.
Bon, ce que tu peux dire, attends, Dominique, d'abord.
C'est une entreprise fantastique.
Dominique. Oui. Est-ce que tu peux dire à Jean-Pierre Farandou d'enlever le pistolet qu'il tient sur ta tempe actuellement?
C'est patron de la SNCF, Farandou.
Dominique.
C'est moi qui ai fait le.
Vas-y.
Dans la Haute-Savoie, on a fait le Léman Express.
Ouais.
C'est un train qui avait. Il y avait un projet de 133 ans. Et puis, moi, j'étais le seul contrôleur à faire l'inauguration de ce train, qui marche très, très bien pour la Haute-Savoie avec la Suisse et la Haute-Savoie. Et M. Farandou, j'ai eu une interview sur FR3, et ce que j'avais dit, j'ai dit que j'étais un amoureux de mon entreprise, que j'adorais mon métier, j'adorais mon entreprise. C'est vrai qu'il y a eu un mail de M. Farandou à mon directeur, comme quoi il a dit qu'il fallait me féliciter, mais moi j'entends pas ça. Mais moi je dis je le dis depuis 43 ans, que je suis fier de mon entreprise, que j'aime mon entreprise. La SNCF, c'est une entreprise fantastique.
Et tu sais, Dominique, Dominique, ça me fait drôle ce que tu dis. Dominique, ça me fait drôle ce que tu dis, puisque j'ai l'impression d'entendre mon père, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis fils et petit-fils de cheminot.
Moi, j'ai l'esprit entreprise.
Mon père, il pouvait partir à 55 ans. Attends, il pouvait partir à 55 ans à l'époque.
Oui.
Bon, et à 55 ans, je peux te dire que mon père, il pétait le feu. Donc, c'était quand même un peu, tu vois, je trouvais ça excessif qu'on puisse partir à 55 ans. Bon, il est resté, il est comme toi, il a prolongé, il a travaillé plus longtemps. Mais c'est vrai que il y a un mythe autour un peu de la retraite des cheminots qui n'est plus la réalité quand même. T'es d'accord que t'as beaucoup de tes collègues qui finalement l'histoire des 50 ans pour les conducteurs c'est plus vrai,
c'est
et 55 ans c'est plus vrai non plus.
Et
donc
puis, quand tu parles des conducteurs, je m'excuse, je te tutoie.
Vas-y.
Quand tu parles des conducteurs, la prime charbon, je peux le dire à tout le monde, la prime charbon ça fait 20 ans que ça n'existe plus. Alors quand j'entends des fois des journalistes qui disent la prime charbon, là je peux vous dire en direct, la prime charbon, ça fait 20 ans, même 30 ans que ça n'existe plus. Mais bon, mais c'est vrai qu'avant, les conducteurs partaient à 50 ans. Moi, je pouvais partir à 55, jusqu'à la réforme Sarkozy. Bon, on partait à 50 ans. Et maintenant, les conducteurs, ils partent à 52 ans. Même des conducteurs, ils partent à 58 ans. Ça, faut que vous le sachiez. Parce que ceux qui disent les conducteurs, ils partent à 52, 53, c'est fini. Maintenant, j'ai un collègue qui va partir conducteur, bientôt. Il a 58 ans et demi. Bon, moi, dans les anciens comme moi, bon, c'est vrai qu'ils sont rares, ceux qui font.
Mais Dominique, ouais, tu vas voir tout le monde partir, là, tous tes collègues s'en aller.
Ah, j'y vois tous.
Ouais. Ouais, oui.
C'est vrai que depuis 4 ans, vous avez raison, madame, depuis 4 ans, je vois tous mes collègues partir, c'est vrai.
Mais alors, Dominique, puis, moi, j'avais remarqué un truc très sympa quand même avec la SNCF, c'est que quand mon père était parti à la retraite, il avait tellement de copains partout. C'est-à-dire que même à la retraite, si tu veux, il avait une vie qui était toujours une vie de cheminot, quoi. C'est-à-dire qu'il avait plein de copains partout, à force des carrières, des gens que t'as croisés, t'as des copains dans toute la France, des anciens.
France.
Attends, c'est incroyable.
En plus, moi, je fais de la compétition. Je suis un athlète, donc je fais de la compétition encore à mon âge. Je suis dans les meilleurs Français à l'heure actuelle, et j'ai toujours fait de la compétition. Alors, ça fait que dans toute la France, ils me connaissent. Bon, ils m'ont rappelé la gazelle, parce que il y a des gens qui sont arrivés, qui sont arrivés au chemin de fer, je courais.
Ah ouais, tu cours derrière les trains, en fait, pour t'entraîner.
Il pousse les trains lui-même.
Alors, comme je cours toujours, il y a quelqu'un qui a dit, ils m'ont appelé, il m'a dit, ça te dérange, Dominique, si je dis la gazelle? Je dis, non, tu peux m'appeler comme ça. On t'a toujours vu courir. Et c'est vrai que je cours toujours, vous voyez.
Bah écoute, Dominique, bravo à toi, Dominique, qui va faire 50 ans le record de longévité.
J'ai plein de choses à dire. J'ai plein de choses à dire, qu'il y a beaucoup de gens qui seraient surpris. Mais voilà.
Et alors, tu vois, Dominique, tu parlais. Juste, non, je termine. Parce que Dominique, oui. Tu pars à la retraite, mais pour parler de l'ambiance à la SNCF, il y a plein de comptes. Sur les réseaux sociaux de, de jeunes cheminots qui font des tas de trucs super.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est génial. Et je fais juste un petit clin. Il y a un compte que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Chouchou Girl. Je sais pas qui c'est, mais elle a un compte Chouchou Girl. Elle s'appelle sur les réseaux sociaux. Et elle met des tweets super rigolos, super sympas. Ça donne envie d'aimer le chemin de fer.
Eh ben, écoute, c'est très bien vendu. Merci beaucoup à toi, Dominique, d'être venu avec nous débattre dans Neumann le Chypre. On est avec Paolo qui nous appelle de Pontcarré en Seine-et-Marne. Bonjour, Paolo.
Bonjour, bonjour à vous trois.
Salut Paolo.
Technico
commercial dans la téléassistance. 58 ans, ça t'irait bien?
Eh ben, écoutez, moi, 58 ans, même moins pour les gens qui travaillent dans le bâtiment, puisque j'ai travaillé longtemps dans le bâtiment. J'en ai 41, j'ai arrêté à 33, puisque j'ai vu mon père à 58 ans. Devoir s'arrêter pour il avait un problème au genou. Il a pris sa pré-retraite et des personnes de 50 ans que j'ai vues le dos cassé, qui n'arrivaient plus même pas à porter quoi que ce soit, ni à marcher presque. Et ces gens-là, on les met de côté, à peu près, on les met de côté parce que ils ne peuvent pas travailler quoi. Et le problème, c'est que dans les chantiers, la personne qui ne travaille pas, eh ben, on la pousse dehors. Voilà, c'est le problème du bâtiment. On peut pas travailler jusqu'à 64. Et même 58, c'est beaucoup trop.
Non, mais là, je veux pas parler à la place de Laurent, mais là où on est d'accord tous les deux, c'est vraiment ce sujet sur lequel il y a énormément de progrès à faire, qui est la transition, si tu veux, entre ta vie active et la retraite. C'est-à-dire que des gens qui sont dans le bâtiment, qui ont 40 ans de carrière, qui ont le physique cassé, en même temps, ils ont plein de trucs à apprendre à tous les nouveaux, tu vois, à tous les jeunes, etc. Donc, je pense que il faut, là, il y a un vrai sujet sur les efforts. Moi, on parlait de la SNCF tout à l'heure, t'as des conducteurs qui adoreraient travailler plus longtemps, par exemple, faire de la formation, etc. Mais non, on leur propose pas grand chose en fait.
Donc le problème, Emmanuel, c'est pas seulement la question des carrières longues. Ce sujet-là, il a déjà été traité par la dernière réforme des retraites. La question, c'est quels sont les métiers pénibles.
C'est compliqué de faire une liste.
D'abord, c'est compliqué. T'as raison. Et cette pénibilité, à combien d'années de cotisation elle te donne droit? Ou plutôt combien d'années elle t'enlève. Voilà, c'est sur ça qu'il faut travailler. Et pardon, l'exemple que prend Paolo, les gens dans le bâtiment, mais tout à l'heure on était avec un chauffeur, il y a plein de métiers comme
ça. On y arrive bien pour avoir des places de crèche, à mettre des points en fonction des professions des parents pour avoir une place ou pas, je vois pas pourquoi on y arriverait pas dans la
non, ça c'est la volonté politique.
La dernière fois qu'on
a discuté de la réforme des retraites, et pour le coup, c'était une vraie réforme systémique, la réforme par points. Moi, je note que à la toute fin, on n'avait toujours pas réglé le problème de la pénibilité.
Oui, mais parce que, Laurent, il y a des sujets extrêmement complexes derrière ça et que c'est extrêmement difficile. Il y a un sujet, par exemple.
C'est pas parce que c'est difficile qu'on renonce.
Non, mais par exemple, parce que je le vois, toi, derrière ton raisonnement, là, je le vois au-dessus de ta tête, là. C'est les patrons qui veulent pas. C'est les patrons qui bloquent, c'est les patrons qui coincent. La réalité,
je t'ai parlé de volonté politique.
Mais le problème, c'est qu'il faut pas que le dispositif décourage les entreprises de faire des efforts pour réduire la pénibilité. Et la vérité, elle est là aussi. C'est-à-dire qu'entre deux salariés, qui auront fait le même métier pendant 40 ans, l'un dans une boîte qui ne prend aucun soin de ses salariés et l'autre dans une boîte qui prend en compte énormément l'intérêt de ses salariés, il faut qu'à un moment, la boîte qui a pris soin de son salarié, elle soit récompensée par rapport à celle qui n'en a pas pris soin. Voilà. Donc c'est un sujet majeur, mais c'est un sujet complexe.
On pourra faire plus. Oui, vas-y, Paolo, tu auras le mot de la fin.
Oui, si je peux me permettre, c'est que la réalité, là on parle, mais c'est la réalité n'est pas ça, c'est que les personnes qui travaillent dans le bâtiment, moi je vous donne un exemple, dans le ravalement, qui est un métier assez pénible, c'est que si on peut pas faire ce métier-là parce qu'on a un problème de santé ou quoi que ce soit, parce que à cause des années passées dans le bâtiment. Le patron le met de côté, il ne fait pas de formation, on le met de côté pour que la personne se dise qu'il va sortir de l'entreprise de lui-même.
Et c'est un peu triste, c'est le placard pour les vieux.
Exactement. Et la réalité, c'est ça, c'est que j'ai entendu 50 ans, c'est très bien, mais la réalité, c'est que dans les bâtiments, on ne peut pas faire 50 ans, c'est impossible. Il faudrait avoir un juste milieu à 55. Voilà, les personnes qui ont travaillé toute leur vie dans le bâtiment, on ne travaille pas dans un bureau.
Mais c'est pour ça qu'il faut garder la pénibilité.
J'ai laissé ce travail-là parce que je me suis dit, j'ai 41 ans, voilà, je peux faire autre chose.
arriver à 50 ans et me dire bah, j'ai le dos cassé, je peux rien faire et on va un coup dehors.
Merci voilà, beaucoup Paolo d'avoir été avec nous dans Neumann Le Chip, d'être venu débattre. Lisa Marie, quel est le résultat définitif?
Vous êtes finalement 65% à avoir répondu non, ce n'est pas raisonnable la retraite à 58 ans.
Voilà.
Donc Emmanuel
voilà.
Le Chypre qui gagne voilà. pour son dernier
Vive
débat de la saison. Bravo à
on
toi.
On t'a un petit peu organisé Emmanuel, tout ça. Hein. Tout on t'a ça laissé c'est gagner quoi. Quoi
c'est
ça.
C'est sympa parce que pour ma dernière émission,
attends,
vous laissé gagner c'est quoi ça.
Attends, pour ta dernière émission.
Un cheminot qui m'a fait, oui, qui m'a rappelé plein de bons
Lisa
souvenirs.
Lisa Marie va te parler de bisous.
Oh voilà.
C'est l'apothéose. C'est bon à savoir.
C'est la journée mondiale du baiser aujourd'hui.
Oui, la journée mondiale du baiser aujourd'hui. Cette journée internationale du baiser, elle est née dans les années 90, elle se célèbre partout dans le monde, alors qu'on les appelle galoche, patin, pelle, french kiss, baiser, bisou ou bien bise, aujourd'hui on célèbre
c'est
le bisou.
C'est pas tout à fait la même chose.
Ouais. Bah oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui on célèbre le bisou, mais vraiment le bisou au sens large du terme, autant de témoignages de l'affection ou de l'amour que l'on éprouve pour quelqu'un, sauf que depuis le début de la pandémie de Covid, nos bisous sont réservés aux proches et se pratiquent même avec modération. La bise, par exemple, on a dû s'en priver. Alors moi, ça m'arrange parce que je n'aime pas trop ça. Mais je sais que Laurent, ça te manque, toi, de faire la bise. T'adores
ah bah
ouais, ça
ouais, j'adore ça.
Alors, puisque c'est la journée... Puisque c'est la journée mondiale du baiser, j'ai préparé un petit quiz pour tester vos connaissances sur les bisous.
Allez.
Combien de muscles sont sollicités quand on fait un bisou, à votre avis?
183.
Non. Là, tu
8.
Un peu trop. Non, t'es loin du compte, là, 50. Pour le coup. 34 muscles sont sollicités. 34 muscles travaillent
ça,
quand on fait un bisou.
C'est pour les feignants du bisou. Ça, c'est...
toi, tu fais travailler tous tes muscles, ça tourne dans tous les sens.
34 muscles.
Deuxième question. Combien de bactéries sont échangées lors d'un French kiss en moyenne?
Plusieurs milliards.
C'est en millions.
Ah, bah, quand même.
103 millions.
80 millions de bactéries échangées.
Et puis, tu les as pas comptées non plus. Hein.
C'est des études qui disent ça. Et puis dernière question, combien de temps a duré le plus long baiser du monde? C'est plus d'un jour.
C'est un record
du monde. C'était une compétition. 32
heures. 53 heures.
T'es pas loin. 58 heures, 35 minutes et 58 secondes. C'était à la Saint-Valentin 2013.
Les concours d'épluchage de crevettes, c'est quand même plus marrant.
Là, ils n'ont pas eu le droit de s'asseoir, ils n'ont pas eu le droit de dormir ni de se décoller pour boire ou aller aux toilettes pendant 58 heures, 35 minutes.
T'as rien mangé, rien bu.
La difficulté, c'est qu'il faut pendant 58 heures respirer par le nez.
Parce que la bouche est occupée pour le coup.
C'est vraiment débile comme concours. Je vous dis, je préfère vraiment les trucs d'épluchage de crevettes ou les mangeages de hot dog. Il y avait eu le concours de.
C'est vrai,
c'est des doigts qui sentent mauvais.
Et les piments, c'est bien aussi.
Non, ça c'est idiot.
Les piments de plus en plus fort.
Ne faites pas ça chez vous. Merci Lisa Marie, on peut retrouver C'est bon à savoir sur tous nos réseaux sociaux et sur rmc.fr.
Moi je suis pas mal sur la pratique.
Neumann Le Chypre avec Le Chypre, puisqu'Emmanuel, tu pars en vacances.
Mais oui, je suis juilletiste moi.
Emmanuel,
je ne serai pas
Mais tu sais quoi, mon petit Emmanuel, je te fais plein de bisous.
Mais moi aussi, voilà. C'était super. Franchement, cette année, merci à tous les auditeurs. On s'est bien marré avec vous. On a appris plein de choses. Vous êtes formidables. Et puis, mes chers collègues, je vous adore. Vous avez été épatants. C'était un pur bonheur
de passer
cette année avec vous.